Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, merci Host Politique pour ton raid, merci beaucoup mon cher Host Politique, véritable pape de la matinale, surtout pour... Non mais je te jure, j'ai cherché des trucs et tout et je trouvais rien. Donc c'est parti, voilà, désolé, mais merci, hein. Merci, merci pour le raid, bienvenue les raideurs de chez Host, installez-vous confortablement. Il a tenté, ça a fait flop. Ouais, c'était pas ma meilleure vanne. c'était pas ma meilleure vanne. On est là pour... on est là pour s'amuser, évidemment, bien sûr. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous allez bien, vous? Tout roule? Tout roule pour vous? Asseyez-vous sur vos sièges arrière. Non, asseyez-vous sur vos 5 sièges. Oh! Oh, j'aime bien! Asseyez-vous séant sur le 5 siège, sur vos 5 sièges. Tout à fait. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Non, il faut pas que je rigole parce que c'est pas marrant, mais bon, voilà, le pape est mort. Le pape est décédé. Le pape François est décédé. Un lundi de Pâques. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Pâques, c'est la plus importante fête chez les chrétiens. C'est plus important que Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est très bien. Mais Pâques, c'est la résurrection de Jésus. C'est le moment le plus important dans la théologie chrétienne. C'est par sa résurrection que le Christ lave l'humanité du péché, apporte le pardon, etc. Bref, c'est la fête la plus ancienne de la chrétienté. Donc, pour un pape, mourir ce jour-là, c'est particulier. C'est... Bon, ben voilà. Enfin, en même temps, tu me diras, on choisit pas sa date. Hein. Oh, pardon. GG pour la victoire. Ah bah si ça se trouve, le pape François, il était tranquillement chez lui en train de regarder la Zilane. Hein. Moi, je pense que c'est ça. En fait, il était chez lui à regarder la Zilane. Et comme il était comme moi, c'est-à-dire qu'il soutenait Nico, il était à fond pour Nico. Et quand Nico a gagné, le pape, ça a été trop d'émotion et malheureusement, son cœur s'est arrêté. Hein. C'est une des théories. C'est une des théories possibles. Je vais essayer de m'accrocher à celle-là. Nico et Cicope. Oui, Nico et Cicope, effectivement. Alors, Cicope, c'était sa première Zilane. Et moi, Nico, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui à plusieurs Zilanes. Donc, c'est vrai que je connais mieux Nico que Cicope. Donc voilà, l'autre truc effectivement auquel j'ai pensé quand j'ai appris le décès du souverain pontife, c'est que la veille de sa mort, il a rencontré J.D. Vance, le vice-président américain d'extrême droite. Non mais je veux pas, voilà, je veux pas être complotiste, hein. Je veux pas être complotiste, je vais pas donner... de l'eau au moulin, de toutes ces conneries à base de comme par hasard. Corrélation, peut-être bien qu'il y a causalité. Mais voilà. Il l'a vraiment rencontré. Oui, oui, il y a une photo. J.D. Vance a bel et bien rencontré le pape François pour un échange de quelques minutes, semble-t-il. C'était pas une visite protocolaire, mais quand même. On dirait un t-shirt des JMJ. Mon t-shirt là? On dirait un t-shirt des JMJ? Je vais te décevoir. Hein. C'est pas tout à fait la même ambiance. Alors c'est tout aussi festif, tu me diras. Hein. Dans les deux cas, voilà. On y va pour faire la teuf et pour baiser un peu. Bon. Mais non, là pour le coup, on est plus sur du pacifisme communiste. Tu vois, c'est. Oh, c'est... Non, mais d'un certain point de vue, il peut y avoir des rapprochements. T'as raison, t'as raison. Ça baise autant, mais à la fête de l'UMA, il y a des capotes. Non, mais vous savez que les Journées mondiales de la jeunesse, donc c'est un grand rassemblement tous les 4 ans, je crois, quelque part dans le monde, un rassemblement de jeunes chrétiens catholiques. Et à chaque fois que les JMJ s'arrêtent quelque part dans le monde, on constate 9 mois plus tard une hausse des naissances. Voilà. Ça m'a toujours fait marrer comme anecdote. Il y en a qui partagent pas que l'hostie. Voilà. Là, faut venir en France pour réarmer. Ouais. J'avoue, faut faire un GMJ en France. Mais c'est déjà arrivé le GMJ en France, non? Je sais plus. Ça parle pas politique ici, c'est Skyrock. Mais attends, Skyrock, je suis pas sûr que Skyrock il parle de la mort du pape, hein. Je suis pas sûr qu'ils en fassent des blagounettes comme vous ici. Donc ce que ça veut dire, non mais quand même, ce que ça veut dire la mort du pape, ça veut dire qu'il va falloir trouver un nouveau pape. Et vous savez comment ça fonctionne, parce que je vous rappelle que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2013. Donc c'était il y a 12 ans. On organise ce qu'on appelle un conclave. Mais un vrai cette fois-ci. Le conclave, c'est le nom que l'on donne à la réunion à huis clos des cardinaux de l'Église catholique qui ont pour mission d'élire un nouveau pape. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que c'est qu'en même temps, nous en France, on a déjà notre conclave. Nous, on a déjà un conclave, hein. Excusez-nous les catholiques, pardon, excusez-nous. On ne veut pas vous déranger, mais comment dire? Nous, on a déjà un conclave qui est censé accoucher, dont on ne sait pas très bien quoi, parce que le Premier ministre a dit que de toutes les manières, on ne changerait pas l'âge légal de départ à la retraite. Donc bon. Ce que ça veut dire, et c'est quelqu'un sur Blue Sky qui m'a fait remarquer ça, c'est que au moins on aura un des deux conclaves qui va accoucher de quelque chose. Faut se. Voilà. Faut s'accrocher aux branches et se satisfaire à l'idée que au moins il y aura un conclave qui va accoucher de quelque chose. L'autre, c'est moins sûr. C'est moins sûr, c'est moins sûr. Ça met combien de temps un conclave? Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de timer. Il n'y a pas de timer pour un conclave. Ça peut durer des années. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un conclave dure des années. Ça peut être relativement rapide. Je crois que le conclave pour le pape François avait été assez rapide. Il commencera dans 3 semaines. Ouais. Le conclave, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Le conclave de l'Église catholique, apostolique et romaine aura lieu avant le congrès du Parti socialiste. Je répète, le conclave des catholiques aura lieu avant le congrès du PS. Avant celui de LFI aussi, je crois. Oui, on peut dire à coup sûr que le conclave des catholiques aura lieu avant le congrès des insoumis, oui. Bien avant même. Est-ce qu'on peut cumuler le mandat de maire de Pau et pape? C'est validé, ça. Ça, c'est ma came, ça. Ça, j'aime bien. Est-ce que le pape peut être maire de Pau? Est-ce que tu m'autorises à tweeter cette blague? Non, parce que depuis ce matin, j'ai que des blagues en tête et je sais jamais lesquelles tweeter. Je me dis non, mais j'ai envie de froisser personne, mais. Non, mais tu sais quoi, on la tweetera plus tard. Plus tard, plus tard. On la tweetera plus tard. Attends, je vais virer le slow mode. Parce que là, 3 secondes, il sert à rien. Hop. Au pire, celui d'Avignon, peut-être. Oh, joli. Le pape est maire d'Avignon. Techniquement, Bayrou est un homme baptisé, il peut être élu pape. C'est vrai. C'est vrai, moi aussi je suis baptisé, moi aussi je pourrais devenir pape. Je suis pas candidat, hein, je le dis tout de suite. François Bayrou peut-il cumuler Premier ministre, maire de Pau et pape? Ça. Je sais pas, il est où Thibault Mulier quand on a besoin de lui? Là, là, on n'a pas la règle, là. C'est quoi la règle? Il n'est pas cardinal, donc il n'est pas éligible. Alors, là, on fait du droit constitutionnel de l'Église catholique, du droit canon. À ma connaissance, le pape n'est pas obligé d'être un cardinal. Par tradition, par usage et par évidence, on a toujours choisi des cardinaux pour devenir pape. Puisque les cardinaux sont ceux qui décident. En général, ils choisissent l'un d'entre eux. Mais je crois que rien ne s'oppose formellement à ce que quelqu'un qui n'est pas cardinal soit élu pape. Je sais pas. Allez voir le film Le Conclave, c'est de rigueur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tiens, d'ailleurs, je vais me le rajouter dans ma watchlist. Le Conclave. Hop. Le Conclave, il faut que je me le rajoute dans ma watchlist. Et vous pouvez aussi regarder si ça vous fait marrer. Parce que là, préparez-vous à ce que dans les mois qui viennent, on soit en mode pape. Pape, conclave, église catholique. N'hésitez pas à regarder la série qui s'appelle The Young Pope. Le jeune pape, qui est une mini-série avec Jude Law, qui joue un pape jeune et un peu barré. The Young Pope. Je recommande, c'est une série que j'ai bien aimée, notamment son esthétique. J'ai bien aimé son esthétique, sa musique, le scénario, whatever, mais ça vaut le détour. Il faut être baptisé et célibataire. Ah! D'accord, il faut être baptisé et célibataire pour être élu pape. Donc François Bayrou n'est pas éligible au poste de pape. C'est important de le savoir. Merci pour cette précision, effectivement. Ça change potentiellement la donne. Ça change potentiellement la donne pour la mairie de Pau. Parce que à Pau. Ouais, non. C'est important. Et Lucie Castet non plus. Lucie Castet peut-elle devenir pape? Je crains que malheureusement pour elle, elle ne soit considérée comme vivant dans le péché. C'est pas très fun l'Église catholique hein, en termes de diversité, tout ça, tout ça. Vous avez vu quand même le faible nombre de gonzesses qu'il y a parmi les cardinaux. C'est pas très woke là-bas. Non, c'est pas giga woke. C'est pas giga woke. Ils organisent des primaires. Mieux, mieux, mieux. Ils font un congrès. Ils font un congrès. Enfin, comme ils font rien comme tout le monde, ils appellent ça un conclave. Le gouvernorat du Vatican est présidé par une femme. Oh, c'est mignon, ils ont une femme gouvernante. Oh, mais ils sont vachement ouverts d'esprit, dis donc. Laisse-moi deviner, c'est des femmes qui font le ménage aussi, au Vatican? Super! Super! On est au niveau 0,1 sur l'échelle de la parité. Si Bayrou est veuf entre-temps, ça peut marcher. Si Bayrou est veuf d'ici les 3 prochaines semaines? Ouais, mais c'est des démarches, hein, quand même. Je connais pas la femme de François Bayrou, mais je crois qu'elle est en bonne santé, tu vois. Faut... Non, puis s'il y a un soupçon de meurtre et tout, ouais. Non, là où je suis content, moi, c'est que je sens qu'on va avoir quand même beaucoup de blagues à se faire, vous et moi, dans les semaines qui viennent. Parce que mine de rien, depuis ce matin, j'arrête pas d'y réfléchir, et il y a un nombre de blagues et de parallèles à faire entre le conclave et le conclave sur les retraites, le conclave et les congrès des partis politiques, la primaire. Non, on va pas se faire chier, on va pas se faire chier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Vatican, c'est la seule théocratie au monde. Non, la République islamique d'Iran est une théocratie aussi dans son genre. Hein. Elle a une constitution quand même bien théocratique, hein. Même si elle a des aspects et des formalismes plus proches de la démocratie. De quel genre d'immunité juridique dispose le pape? Alors, en interne à l'Église catholique, pour moi, le pape bénéficie d'une immunité totale et absolue, compte tenu du fait qu'il est le souverain, et qu'il y a un principe d'infaillibilité du souverain pontife, etc. Donc, vraiment, là, pour le coup, voilà. En externe, le pape est un chef d'État reconnu par probablement tous les pays de la planète. Hein. Je ne sais pas s'il y a des pays qui reconnaissent pas le Vatican, mais voilà, le pape est un chef d'État, donc protocolairement, il faut l'accueillir comme un chef d'État, discuter avec lui comme avec un chef d'État, etc. Mais sinon, pour finir plus rapidement, le mandat d'Emmanuel Macron, ce dernier peut-il être pape? Est-ce qu'Emmanuel Macron est baptisé? C'est une vraie question, je sais pas. J'ai pas la réponse. Et s'il est baptisé, oui, a priori. Ah oui, il est marié, putain, mais bien sûr, il est marié. Il est marié à un homme. Non, je déconne. Non, 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 pas cette blague-là. Non, c'est pas marrant. En vrai, c'est pas marrant. Il est marié à Brigitte Macron. Donc, pareil, il peut pas être marié ni divorcé. Ouais, non, je sais pas. Tu peux te marier sans être baptisé. Oui, ça je sais, mais il est marié civilement. Il est marié civilement, donc. Le pape est marié à Brigitte, je comprends rien. Mais non, Emmanuel Macron est marié à Brigitte Macron, donc il ne peut pas devenir, donc il ne peut pas devenir pape. Mais encore une fois, hein, je vous rappelle que il y a combien de cardinaux dans l'Église catholique? Non, 250. Attends, excuse-moi. Il y a 135 cardinaux électeurs et 117 cardinaux qui ne votent pas. Ça nous fait 252 cardinaux. 252 cardinaux. Donc si vous êtes candidat, enfin, si vous voulez être élu pape, vous avez intérêt à faire partie des 135 cardinaux électeurs. Déjà, vous avez une chance sur 135. Éventuellement, vous pouvez quand même devenir pape si vous êtes membre des 117 cardinaux qui ne votent pas. C'est déjà très improbable, hein. Ensuite, vous pouvez éventuellement être un évêque. Il y a 5340 évêques dans le monde. Ça s'amenuise, hein. Les chances s'amenuisent de ouf. Les chances s'amenuisent, mais de ouf. Si vous n'êtes pas évêque, vous pouvez être un prêtre catholique. Il y en a 400 000. Prêtres dans le monde. Si vous n'êtes pas prêtre, vous pouvez éventuellement être diacre. Il y en a 49 000. Si vous n'êtes pas diacre, vous pouvez éventuellement être moine. Il y en a 460 000. Et si vous n'êtes toujours pas un religieux, vous pouvez faire partie des baptisés. Vous pouvez faire partie des baptisés. Il y en a 1,4 milliard à la surface de la planète. Donc voilà, je veux dire en termes de probabilité, tout ce que je viens de vous dire, ça ne fait que perdre et diluer, 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 diluer la probabilité encore plus. Si en plus de ça, vous êtes maire de Pau, ce qui est déjà beaucoup de responsabilité, hein. Je vous rappelle que maire de Pau, c'est un boulot à plein temps. C'est ce que disait le maire de Pau, François Bayrou, lors des élections municipales de 2020, lorsqu'il disait qu'il serait à sa tâche quotidiennement pour les Paloises et les Palois. Voilà. Donc si même le maire de Pau dit lui-même qu'il n'est pas possible de faire autre chose que maire de Pau quand on est maire de Pau, ça me paraît difficile que le mec devienne pape. Mais bon, il y a un monde où, vous savez, sur cette chaîne, on est ouvert à l'improbable. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui sont peu habitués à cette chaîne, que en l'état actuel des choses, François Bayrou est Premier ministre, et dans son gouvernement, il y a Bruno Retailleau et François Rebsamen. Je veux dire, en termes d'improbable, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est déjà pas mal. Je veux dire, on se. C'est bon, ok. Non, mais d'accord. J'aurais prononcé cette phrase il y a 2 ans. J'aurais dit MDR jamais. Voilà. Et Manuel Valls. Oui, Manuel Valls aussi, oui. Manuel Valls. Oh, Manuel Valls, c'est moins surprenant d'être membre du gouvernement de François Bayrou. Oh, tu me diras, Reps aussi, ça fait quelques années hein, qu'il a rejoint Macron, mais. Mais non, mais c'est original. Suffit d'être une girouette comme Valls et tout est possible. Ah, je suis pas d'accord. Enfin, mais ça, on en a déjà discuté, mais pour moi, Valls n'est pas une girouette. Il a toujours habité à la même adresse, il n'a pas changé. N'étant pas baptisé, j'ai zéro chance, tant pis, je vais chercher une autre carrière. Ah ouais. Ouais, si vous n'êtes pas baptisé, je suis désolé, mais vos chances de devenir pape sont très exactement égales à zéro. Étant catho, j'espère qu'on aura un pape progressiste et qui verra la réalité de ce qu'est devenue l'Église. Bah ça, on va être amené à en parler effectivement dans les semaines qui viennent. Je me permets de, que vous soyez catho ou pas catho, je me permets de vous suggérer de lire les articles de journaux qui vont parler justement des débats internes à l'Église catholique, parce que c'est toujours très intéressant, et qu'il y a des mutations assez profondes qui sont en train de se faire dans l'Église, sur la place des femmes notamment, sur les questions sociétales comme on dit, sur l'homosexualité et son acceptation, sur la lutte contre le sida. Donc il se passe des choses dans l'Église, c'est des mouvements tectoniques qui sont toujours un peu plus lents, qui sont toujours assez feutrés. L'Église catholique et les catholiques apprécient plus la discrétion plutôt que les effets de manche sur les estrades. Donc suivez un peu ce qui va se dire autour de ce conclave, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on est en train de rentrer là, la place du pape peut jouer un rôle. Peut-être pas de premier ordre, hein, il ne s'agit pas de comparer le pape au président des États-Unis, etc. Mais quand même, en termes d'influence, 1,4 milliard de personnes concernées, c'est pas neutre. Quel est le régime de retraite des papes? Pardon. Non, mais en plus, je rigole, mais alors que Benoît XVI, je vous rappelle qu'il a été retraité, hein. Il a démissionné de sa charge de pape Pour la première fois depuis un millénaire, je crois. Sinon, pour les autres papes, le régime de retraite, c'est le décès, hein. Je pense qu'ils cotisent pas beaucoup à la retraite, hein. Ou alors la caisse de retraite doit être vachement excédentaire, hein, parce que... Les protestants peuvent-ils être nommés en tant que pape de l'Église? Ah ouais, donc toi tu cherches la merde, toi tu... Non, non, mais... Est-ce qu'un protestant peut devenir pape? Comment te dire? Non, là ça me paraît... Là, je crois qu'on est sur une incompatibilité fonctionnelle, liturgique. Je pense que même Dieu s'y opposerait. Même Dieu, il dirait non, mais les gars, là, non, 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 s'il vous plaît. Enfin, il faut rester cohérent 2 minutes. Là, on aurait le retour de Dieu sur Terre pour dire non, non, ça suffit maintenant. Dieu et Jésus, c'est pareil. Voilà, tu poses des questions compliquées, hein, parce que ça fait l'objet d'un débat théologique depuis 2000 ans. Moi, c'est pas sur une chaîne Twitch qu'on va y répondre, hein, je suis désolé. Je vais juste faire un truc, par contre, avant qu'on lise des articles, parce que je voulais vous parler de l'actualité cette semaine, mort du pape François, dont on aura l'occasion de reparler, hein, la mort du pape François, avec l'ouverture du conclave d'ici 3 semaines. Je voudrais régler la lumière. Vous trouvez pas que je suis sombre? Attends, là c'est ouvert. J'ai l'impression qu'il y a plus de lumière derrière que devant, donc il faut que je règle cette merde. Parce que j'ai fait des réglages hier déjà et je suis pas satisfait. Alors, normalement la lumière à ma droite, elle a une lumière plus chaude. Attends, pourquoi il change les deux, ce con? Pourquoi ils changent les deux en même temps? Non, non, mais je veux pas que tu changes les deux en même temps, hein. Putain, mais c'est pas vrai. Non, sur mon téléphone, je peux le faire aussi. Voilà, donc sur mon téléphone, je peux le faire. Donc on va le faire sur mon tel. Alors. Hop. Donc je disais quoi? La lumière à droite, c'est une lumière chaude. La lumière à gauche, c'est une lumière froide. Ça, c'est fait exprès. Parce que la fenêtre est là, qu'elle m'apporte une lumière plus froide que la fenêtre qui est là. Ça fait un rattrapage. Donc ça, c'est la main. Ça, c'est le rattrapage. Et j'ai pas de backlight, mais en vrai, j'en ai rarement eu besoin. Pour l'instant, on va rester comme ça. De toute façon, je saurais pas où la mettre, la backlight. En termes d'intensité, ça me paraît bien. Et sur la main, putain, mais c'est pareil. Est-ce que c'est mieux là déjà? Ça me pique un peu les yeux, mais pas plus que ça. Mieux mais pas assez. Pas assez, ça risque de me piquer la gueule, hein. Tu vois, c'est important d'avoir le rattrapage parce que ça efface en partie l'ombre portée des lunettes. Bon, ça me pique les yeux là, hein. Je veux bien, mais... Tu es un papillon de lumière sous les projecteurs. Sinon, le rideau. Bah, non, mais il est déjà ouvert, le rideau. Pardon, j'en profite. Mais je sais pas pourquoi je me trouve si. Et la lumière indirecte. Alors attendez, je vais monter la lumière indirecte parce que j'ai deux spots de lumière indirecte. C'est mieux là, c'est mieux. Pardon, il y a un coussin qui est tombé. C'est mieux, mais ça me pique les yeux quand même, hein. Et maintenant, on va faire le test pour vérifier que ça marche bien dans le noir complet. Alors, c'est pas tout à fait la bonne expression noir complet, mais quand je stream la nuit, ça ressemble à ça. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est cramé, hein. Je suis désolé, mais c'est cramé, hein. Là, c'est mieux. Là, c'est clairement mieux. Donc ça, c'est rideau fermé, sans lumière naturelle. Ce qui fait que le coin là-bas est un peu sombre, mais comme il est derrière le chat, c'est pas grave. Non mais croyez pas, hein, tout ça est très calculé, hein. Quand même 10 ans d'expérience, donc ah, voilà. Ça là-bas c'est sombre, mais c'est pas grave parce que c'est derrière le chat, donc c'est un peu fait exprès que ce soit sombre. Dilé-dilé-doum. Hop, et si je remets la lumière naturelle? Ça va, c'est pas cramé. Bon, bah ça me paraît bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un réglage satisfaisant. On va garder ça comme ça. Prends en compte que ton t-shirt est blanc aussi. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Faut faire gaffe à ça. Bon, si on doit refaire des réglages, on verra en fonction de la couleur du t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui s'engueulent dans le chat là. Qu'est-ce que vous nous faites chier? Pardon, excusez-moi. À quoi vous passez votre lundi? Ah, parce qu'il y a des gens qui rigolent de la mort du pape. Oui, d'accord. Oh putain. De toute façon, on va changer de sujet. Ça va faire du bien à tout le monde. Regardez, hop. Lilalilaloum. J'avais snipé quoi dans l'actualité politique cette semaine? J'avais snipé la possibilité, mesdames et messieurs, puisqu'on est dans une ambiance conclave. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura peut-être, une primaire des macronistes pour l'élection de 2027. Non, mais c'est très bien. C'est une proposition qui a été faite par Alain Minc. Alain Minc, le libéral Alain Minc. Qui propose il appelle à une grande primaire ouverte allant des macronistes de gauche à Bruno Retailleau, le grand. En fait, c'est un peu le socle commun, le fameux socle commun de François Bayrou, qui va effectivement des macronistes de gauche jusqu'à Bruno Retailleau, mais pas plus loin, faut pas déconner non plus. Et c'est vrai que si on prend cette fourchette-là, c'est assez large, il faut le dire. Invité dimanche du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Public Sénat, l'essayiste exhorte le bloc des modérés à n'avoir qu'un seul candidat en 2027 pour assurer la présence au second tour de la présidentielle. D'un point de vue relativiste, enfin d'un point de vue de ce qu'il appelle les modérés, je suis d'accord avec lui, hein. C'est dans leur intérêt d'avoir un candidat unique. À 2 ans de l'élection présidentielle, les ambitions s'affirment dans le bloc central. Si les enquêtes d'opinion promettent au camp macroniste d'être qualifié au second tour, quel que soit son candidat, le choix de l'incarnation n'est pas encore tranché. Très important, c'est le fameux sondage IFOP d'il y a 15 jours, qui soulignait effectivement qu'en l'état actuel des choses, quel que soit le scénario, les macronistes sont au second tour. Si c'est Gabriel Attal, si c'est Édouard Philippe. Je ne sais plus qu'ils avaient testé d'autres, François Bayrou, je crois. Donc en l'état actuel des choses, sans dynamique de campagne, ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais par contre, la question, c'est qui? Qui pour porter cette qualification au second tour? L'enjeu est pourtant de taille face au Rassemblement national qui caracole en tête des intentions de vote. Pour le moment, deux figures sortent du lot. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, déjà sur la ligne de départ pour 2027. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe est déjà candidat, hein. Il l'a dit publiquement. Et le patron du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal. Donc on a un match Édouard Philippe-Gabriel Attal. Lancés dans la bataille de l'après-Macron, les ex de Matignon se ménagent, mais tiennent à se différencier, sans primaire, dans l'espoir que l'un d'eux s'impose naturellement dans leur camp. Invité dimanche du grand jury RTL Le Figaro M6 Public Sénat, Gulli, l'essayiste Alain Minc a appelé le bloc des modérés, qui représente entre 25 et 30% de l'électorat, oui, c'est à peu près ça, à n'avoir qu'un seul candidat à la présidentielle. Faute de quoi, il risque de ne pas être au second tour. La vraie question, ce n'est pas X ou Y, c'est est-ce qu'il y a un mécanisme de choix dans l'équation politique représentée au gouvernement qui va des macronismes de gauche à Bruno Retailleau? A-t-il réclamé, plaidant avec peu d'espoir pour une grande primaire ouverte? À l'image de la compétition de la droite et du centre organisée à l'automne 2016 entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ou encore Bruno Le Maire, c'était un fantastique succès. Si François Fillon, vainqueur du scrutin ouvert, n'avait pas fait les gaffes qu'il a faites, il était élu président de la République, a-t-il analysé? Je suis d'accord avec l'analyse d'Alain Minc. Je suis d'accord avec l'analyse d'Alain Minc. Clairement, la primaire de 2017 a été un succès pour les Républicains et François Fillon n'a pas réussi à se qualifier au second tour, en partie à cause des affaires, même s'il a fait un score plus qu'honorable, ce qui montre bien la détermination de son électorat. Donc la candidature de François Fillon en 2017 ne s'est pas effondrée. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Elle a reculé, suffisamment reculé pour l'empêcher de se qualifier au second tour. Mais voilà. Alors que le bloc central doit composer avec un trop-plein de prétendants, le conseiller politique juge qu'une primaire serait le seul moyen de régler ce problème et de regretter qu'Édouard Philippe, en avance sur ses concurrents, putatifs dans les sondages, ne prenne pas d'initiative en ce sens. Ce serait mis à son crédit. Bah ouais, mais peut-être qu'Édouard Philippe est précisément celui qui n'a pas intérêt à susciter l'envie d'une primaire, puisque son but, comme c'est dit plus tôt dans l'article, c'est de s'imposer naturellement. Comme le choix naturel de son propre camp. Donc, à mon avis, c'est. Moi, je pense que. En fait, je suis pas d'accord avec la conclusion de l'article, c'est plutôt à Gabriel Attal. Moi, je pense que si Gabriel Attal, il veut changer, il veut créer la différence, à mon avis, il a intérêt à proposer une primaire. En mode, qu'est-ce que je risque? Pourquoi il y a de la musique là? Putain, c'est Le Figaro. Le Figaro, ils te mettent des pubs. Là, j'ai une pub pour voyager en business sur Air France. Au-dessus, j'ai un truc pour les appareils photo Leica. J'ai des pubs Amazon. Non, c'est sympa, c'est sympa. On aime bien. En même temps, mais attends, mais normalement, je suis abonné, hein. Ah, mais c'est parce que je suis pas connecté, c'est pour ça. C'est pour ça, j'étais pas connecté sur mon compte Le Figaro Premium. Mais oui, mais bien sûr. Je me disais aussi, c'est ma faute. Voilà. Là, je suis connecté, il y a plus de pubs. Putain, quel bonheur. J'ai bien. Une incitation à reprendre Flight Simulator, assurément. Donc, non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette perspective d'une primaire du camp macroniste? Alors, de la capacité d'aller chercher les macronistes de gauche jusqu'à Bruno Retailleau, j'y crois pas, parce que je pense que Bruno Retailleau, il va être élu président des Républicains, et il n'a pas intérêt à rentrer dans le jeu de cette primaire. Sauf surprise, d'ailleurs, hein, sauf surprise. Peut-être que Bruno Retailleau va être l'héritier du macronisme. Oh, putain, vous imaginez? Bruno Retailleau se présente à une primaire de la droite et du centre, et il la remporte. Putain, les macronistes. Bah, j'espère que bah, du coup, il y aura Raphaël Glucksmann qui va se présenter aussi pour récupérer les votes, hein. Tu penses que Retailleau va battre Wauquiez? Oui, je pense. Glucksmann, il n'est pas censé être de gauche à la base. Si, mais enfin, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas moi qui ai dit qui est de gauche et qui l'est pas, mais Raphaël Glucksmann peut être l'un des héritiers naturels des électeurs macronistes. Parce que ce qui a plu aux électeurs macronistes en 2016 et en 2017, c'est la promesse du dépassement. C'est cette fameuse promesse du dépassement des clivages gauche-droite. On va travailler ensemble, etc. Bah, vous avez vu le dernier Baxit avec Roland Lescure qui nous a expliqué exactement ça. La capacité de dépassement et tout. Bon. Une fois que le macronisme sera terminé, parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, admettons que Bruno, que Gabriel Attal et Édouard Philippe n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le bordel, ça s'effondre, etc. Bon. Les électeurs macronistes qui avaient été séduits par cette logique de dépassement, moi, à mon avis, il y en a toute une partie qui va se diriger vers Raphaël Glucksmann, classé centre-gauche et mieux à même de représenter les voix de ces progressistes-là, par opposition à une gauche plus marxiste et jugée plus infréquentable par les gens du centre, et l'autre partie qui peut se retrouver chez un Bruno Retailleau. Donc à mon avis, Raphaël Glucksmann, il parie en partie sur sa capacité à lui, à récupérer le vote d'une bonne partie des macronistes. Glucksmann, il est très bien sur le papier, mais il a zéro troupe. Macron, ça a démarré avec la Grande Marche et le soutien populaire énormissime. Ouais, alors moi, j'irais pas comme toi jusqu'à dire qu'il y avait un soutien populaire énormissime au moment de la Grande Marche. Il y avait un intérêt médiatique pour une candidature nouvelle qui a été suscitée par Emmanuel Macron et ça l'a porté considérablement. Mais je dirais pas que Macron, il avait des troupes, hein. Macron, il avait des bonnes volontés. Mais moi, je me souviens bien de la structuration du parti La République En Marche. C'était pas simple, hein. C'était pas simple, on partait de nulle part. Dans tous les territoires, les gens s'envoyaient des CV pour se recruter les uns les autres. Glucksmann, il s'est fait pousser pendant les européennes aussi. Avec les mêmes conditions, il fait une Macron 2.0 aussi. Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est la grande différence entre Emmanuel Macron en 2016 et Raphaël Glucksmann en 2025. C'est que Emmanuel Macron n'avait jamais été élu nulle part. Jamais. Glucksmann, lui, il a remporté. Enfin, il a remporté. Il a fait des scores pas dégueulasses à deux élections européennes d'affilée. Donc, y a-t-il un candidat LR modéré qui peut aussi leur prendre des voix? Pour moi, LR modéré, ça veut dire En Marche, hein. C'est-à-dire que pour moi, ce que tu décris, c'est un Édouard Philippe. Pour avoir pu échanger avec des gens qui ont fait campagne pour Macron en 2017, les mecs étaient tellement nombreux qu'ils se relayaient sur les marchés. Après, c'est des amateurs à l'époque. Ouais, mais c'est pour ça. Attends, moi je fais la différence entre avoir des troupes sur le long terme et faire une campagne présidentielle. Effectivement, quand tu fais une campagne présidentielle, c'est plus facile d'avoir des troupes, des gens qui s'engagent dans une campagne. Mais c'est pas la même chose de s'engager dans une campagne pendant 1 ou 2 mois et de s'engager dans un parti politique pendant plusieurs années. C'est pas exactement pareil. Comment il s'appelait celui que vous aviez reçu dans Baxit et qui était un LR plutôt social? C'était le médecin qui est maire de la Garenne. Et médecin à l'hôpital. Philippe Juvin, merci les amis, merci. Philippe Juvin. Et Aurélien Pradier. Ouais, Aurélien Pradier aussi, c'est vrai, t'as raison. Ben Philippe Juvin, c'était la première saison de Baxit. Aurélien Pradier, c'était la troisième saison de Baxit. Pradier ou Juvin, ça passe pour un candidat non ciottiste. Bah, Ciotti, il est parti maintenant. Ciotti, il soutient le RN. Je sais pas ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui devient Aurélien Pradier? Il est très isolé. Aurélien Pradier, il est très isolé parce qu'il n'est pas du tout en ligne avec la ligne politique des Républicains, Éric Ciotti, tout ça. Donc, je crois même qu'il s'est mis en retrait des Républicains. Mais Aurélien Pradier, il est très solide dans sa circonscription. Ils n'ont aucune expérience ou prestance qui qualifie pour la présidentielle Pradier et Juvin. Comme Emmanuel Macron en 2016, hein. C'est pas son stage au gouvernement qui a qualifié Emmanuel Macron. Pradier est non inscrit à l'Assemblée. Il a même quitté le groupe, Aurélien Pradier, j'avais un doute là-dessus, mais il a même quitté le groupe des Républicains, il est non inscrit. Mais de toutes les manières, Aurélien Pradier, il est quand même assez solide dans sa circonscription, dans le Lot. Donc moi, je m'inquiète pas pour son avenir personnel. Par contre, dans sa capacité à exister dans un collectif, c'est plus compliqué, effectivement. Vu l'ambiance qu'a chez les Républicains. Et si c'est Bruno Retailleau qui remporte la présidence des Républicains, Aurélien Pradier, il va pas retourner chez les Républicains. Si à la proportionnelle, Pradier peut perdre son siège. Oui. Oui, absolument. Ça dépend si la proportionnelle est par région, par département et comment les listes s'organisent. Mais c'est possible. Speaking of proportionnelle, dis donc, c'est marrant que tu abordes ce sujet. Parce que je voulais justement lire un article qui parle de la proportionnelle. Où est-ce qu'on en est de cette histoire de proportionnelle? Vous vous souvenez? Moi, je me souviens d'un François Bayrou. François Bayrou, il débarque en mode premier ministre. Il veut pas faire comme Barnier et se faire censurer au bout de 3 mois. Donc il dit, bon, moi je vais donner des gages à la gauche et un peu à l'extrême droite aussi, en disant, je m'engage à ce qu'on réfléchisse à un scrutin proportionnel. Oh. Et puis depuis, plus rien. Oh. Voilà, depuis, plus rien. Depuis, on ne sait pas où ça allait. Voilà. Donc, un article de Libé ce matin. Proportionnelle aux législatives, Bayrou engagera des consultations avec les partis et les groupes parlementaires fin avril. Nous sommes le 21 avril. Je répète, nous sommes le 21 avril. Le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, a annoncé au JDD que le Premier ministre entamerait des discussions pour une évolution du mode de scrutin, abandonné depuis les législatives de 1986. Oh! Est-ce un tournant concret ou l'énième épisode d'une des plus longues arlésiennes de la Ve République? François Bayrou, consultant, non, pardon, François Bayrou, constant défenseur de la proportionnelle et qui en avait fait une condition de son ralliement à Emmanuel Macron en 2017, semble vouloir avancer sur la réforme du mode de scrutin électoral pour les législatives. Pour les législatives, pardon, excuse-moi. Hop là. Dans une interview au journal du dimanche, son ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, du MoDem, a annoncé que le Premier ministre allait engager dès la fin du mois d'avril une consultation avec les partis et les groupes parlementaires sur le sujet. Le Premier ministre souhaite aller vers la proportionnelle aux législatives. À la rentrée 2028, il engagera une consultation de tous les partis avec les groupes parlementaires. Non, pardon, à la rentrée du 28 avril. J'ai dit quoi? Je crois que j'ai dit du 2028. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Le journal détenu a déclaré le vice-président du MoDem dans le JDD. Tout le monde ou presque est d'accord sur le principe. Il faut plus de proportionnel. Reste à déterminer la forme. Régionale, départementale, mixte. Nous aurons ce débat, tout comme le chat de Jean Massier. Ajoute ce proche de François Bayrou, qui laisse entendre que cette réforme pourrait être examinée à l'automne. Ah, malin! Malin, Patrick Mignola. On renvoie la discussion de la loi à l'automne pour se garantir le fait de ne pas être censuré en juin et de passer l'été. Pas mal. Non, c'est smart, c'est smart. Les mecs sont smart, hein. Faut pas croire, hein. Le chef du gouvernement, qui avait annoncé la couleur dès son discours de politique générale, est un défenseur historique du mode de scrutin proportionnel pour l'Assemblée nationale. Depuis l'instauration de la Ve République, et à l'exception des législatives de 1986, où il avait amoindri la victoire de la droite au profit du Front National, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, comme l'a très souvent expliqué le streamer Jean Massier. En 2018, le président de la République Emmanuel Macron avait souhaité l'instauration d'un système mixte, avec 15% des députés élus à la proportionnelle, mais la réforme avait été abandonnée en pleine affaire Benalla. Vous vous en souvenez. Sur le principe, la proportionnelle compte plusieurs appuis. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est favorable à la proportionnelle dans les départements comptant au moins 11 députés. Donc, je vous expliquerai après si vous avez des questions, mais en gros, c'est le même système qu'au sénatorial. Voilà. Avant d'accéder à Matignon, François Bayrou penchait, lui, pour une proportionnelle dans l'ensemble des départements. Le Béarnais a souvent varié dans ses modalités d'application. En 2021, le Modem a défendu deux réformes, une proportionnelle intégrale au niveau départemental, pour des listes ayant obtenu au moins 5% des voix, ok, donc ça, classique. Une autre appliquée au département élisant 12 députés, oui, donc comme Yaël Braun-Pivet. Lors de son discours de politique générale, il inclinait pour une proportionnelle inscrite dans les territoires. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être la première option. De nombreux partis, notamment à gauche, souhaitent une évolution du mode de scrutin. LFI a ainsi déposé en avril 2024 une proposition de loi pour un retour au mode de scrutin de 1986 avec une proportionnelle intégrale au niveau départemental. Donc comme Yaël Braun-Pivet, quoi. Ok. Les écologistes ont fait adopter au Sénat une résolution symbolique, sans trancher sur le mode de scrutin, pour une bascule vers la proportionnelle. Ça a été grâce à Mélanie Vogel, la sénatrice écolo, qui plaide énormément pour la proportionnelle. Le Parti socialiste part divisé, comme Renaissance. À droite, les Républicains, qui grâce au scrutin majoritaire à deux tours ont pu conserver bon nombre de circonscriptions malgré une érosion de leur socle électoral, ainsi que le parti Horizon, y sont opposés. Ça, c'est pas surprenant. Les gaullistes, les héritiers du gaullisme, les Républicains, Horizon, ne veulent pas entendre parler du scrutin proportionnel. Ils ont toujours été contre le scrutin proportionnel. Ils veulent des élections incarnées avec un scrutin majoritaire par circonscription. Ça, c'est tout à fait normal. Le RN revendique également la proportionnelle, mais avec l'établissement d'une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. Marine Le Pen semblait toutefois être revenue sur la question à la faveur des derniers résultats de son parti, qui avait réussi à surmonter le plafond de verre du scrutin majoritaire au cours des dernières législatives. Effectivement, Marine Le Pen a longtemps été une outsideuse du paysage politique, qui souhaitait donc améliorer le mode de scrutin pour lui permettre d'avoir davantage de députés. Mais comme Marine Le Pen, depuis 10 ans, parvient à faire des bons scores à l'élection présidentielle, et surtout des bons scores aux élections législatives, malgré le scrutin majoritaire, bah, elle est moins favorable au scrutin proportionnel qu'avant. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Qui est pour une proportionnelle? LFI, François Bayrou, Marine Le Pen, une partie du PS, les écologistes. Qui est contre? Les Républicains et Horizon. Et ensuite, il faut discuter des modalités. Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le même genre de primaire, mais j'ai l'impression de proportionnel. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un système. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un système mixte. Hein. Quasi tout le NFP en vrai. Oui, en vrai, enfin j'y réfléchis, mais à peu près tout le NFP est d'accord, oui. Donc vous avez compris, une future usine à gaz. Non, c'est pas ça une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est un truc qui marche pas et qui sert à rien. Ça, c'est un mode de scrutin. Ça peut pas être gazeux. Est-ce que l'UDR est d'accord? Je sais pas. Sans doute. Il y a une prime majoritaire dans une assemblée nationale dans un pays démocratique dans le monde ou que dans l'Italie fasciste? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des primes majoritaires. Alors oui, il y en a en France. mais pas à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a pas de. Il y en a pour les municipales et les régionales, mais pas pour l'Assemblée nationale. Marine Le Pen réclame une prime majoritaire. Une prime majoritaire, pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un bonus de nombre de sièges qui est accordé à la liste qui est arrivée en tête. Et pourquoi est-ce qu'on offre un bonus comme ça à celui qui est arrivé en tête? C'est pour garantir des majorités stables et éviter de se retrouver dans des majorités fragiles de type 4ème République ou là actuellement d'ailleurs, hein, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Après, pour le modèle qui est proposé, de ce que j'en comprends par Yael Braun-Pivet et LFI aussi, c'est un modèle mixte, c'est-à-dire que, donc c'est exactement ce qui se passe au Sénat, en fonction du département, on n'élit pas de la même manière les députés et les sénateurs. Si vous êtes dans un département, si vous êtes dans un département très peuplé, vous pouvez faire un scrutin proportionnel et répartir les sièges du département à la proportion. Genre, s'il y a 15 sièges dans le département, eh ben on répartit les 15 sièges à la proportion obtenue par chacune des listes. Si par contre vous êtes dans un département très peu peuplé, un département rural par exemple, mais très rural, là il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, ça ne sert à rien de faire une proportionnelle quand il n'y a qu'un siège à pourvoir. On appelle ça une prime, on appelle ça un scrutin majoritaire. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche au Sénat. Dans les départements les plus peuplés, c'est à la proportionnelle. Dans les départements les moins peuplés, c'est au scrutin majoritaire. Et pour le Rhône versus métropole de Lyon, on pourrait avoir des fonctionnements différents. Oui, c'est ça. La métropole de Lyon est très peuplée, donc on pourrait élire les députés lyonnais à la proportionnelle. Et les autres députés du Rhône, dans les départements les moins peuplés, seraient élus dans des grandes circonscriptions au scrutin majoritaire comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des départements avec un seul élu? Bien sûr, Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, c'est pas un département, c'est une circonscription électorale. Mais oui, bien sûr. La Creuse, ouais, sans doute. La Lozère. Ouais, la Lozère, c'est possible, ouais. Oui, il y a des départements qui sont beaucoup moins peuplés que d'autres. Voilà, c'est tout. Dans les petits départements à un seul député, ça devient un scrutin à un seul tour. Non. Non, t'as pas besoin de faire un seul tour, tu peux faire deux tours. Enfin, tu peux faire une élection normale, en fait, c'est comme d'habitude. Tu peux mettre des règles de premier tour, second tour, ça change rien. Tu peux faire au premier tour si tu veux. Après, le premier tour, c'est très bourrin, hein. C'est le système anglais. Moi, je trouve ça vénère, hein, quand même, le système à un seul tour. Winner takes all. Je trouve ça un peu raide, quoi. Comment faire des proportionnelles à deux tours? Eh bien, tu fais comme les élections régionales. Tu fais un seuil de maintien au second tour. Tu autorises les fusions de listes. Et tu organises un second tour opposant les listes restantes. C'est tout. Ouais, je sais pas. Pour moi, l'information la plus importante dans cet article, c'est que Patrick Mignola, qui est un proche de François Bayrou, se projette vers l'automne prochain pour la discussion du projet de loi. Et ça, pour moi, c'est l'information la plus importante. Le nombre de députés est en fonction du nombre d'habitants au total, ou bien c'est un nombre fixe? C'est un nombre fixe. Le nombre de députés est un nombre fixe. Il est fixé par la Constitution à 577, et ensuite on se démerde pour, en application de la loi, avoir une représentation la plus juste possible par nombre d'habitants et par territoire avec des spécificités. Par exemple, si on appliquait strictement le nombre d'habitants comme critère de validation d'une circonscription, on n'aurait pas de député de Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Donc, voilà. Donc on est obligé de jouer avec la limite du nombre de 577. Tu peux pas augmenter la quantité de députés par-delà ce que prévoit la Constitution de 577. En revanche, il y a un truc que tu peux faire, c'est réduire le nombre de députés. Alors, ça avait été proposé en 2018 dans la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, qui s'était retrouvé arrêté par Alexandre Benalla, où il y avait eu un deal qui avait été trouvé par Emmanuel Macron de manière assez habile, je trouve, avec Gérard Larcher, pour réduire le nombre de députés et de sénateurs. Et donc, ils avaient essayé de trouver un accord qu'ils avaient réussi à trouver. Alors, je crois que le Sénat descendait à 250 ou 300 sénateurs. Je sais plus ce qu'ils avaient réussi à trouver comme deal pour le Sénat. Et les députés, pareil, ça descendait à 350 ou 400. Pourquoi 577? Parce que c'était le nombre de députés au moment où la Constitution a été adoptée. C'est juste pour ça. Je crois que c'était vraiment pas plus compliqué que ça. Hein. Pourquoi réduire? Pourquoi réduire le nombre de députés et de sénateurs? Bah, c'est une bonne question. Moi, je vais pas vous mentir. J'ai jamais été très très chaud sur la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Je ne crois pas que ce soit la quantité de députés et de sénateurs qui fassent la qualité des politiques publiques qui sont menées et de leur évaluation et de leur modification. Tu vois, les arguments, c'est pour une plus grande efficacité du travail parlementaire. C'est ça l'argument qui a avancé la plupart du temps. Du coup, si je changerais en 10 minutes, ça coûtera moins cher. Alors ça aussi, c'est un argument de merde. Enfin, pardon, ça aussi, c'est un argument qui est avancé régulièrement en disant que les députés, ça coûte cher. Donc réduire le nombre de députés, c'est faire des économies. Et c'est donc une très bonne chose, puisque seules les économies sont une bonne chose. Tout ce qui est dépenses d'argent public doit être limité au maximum, etc. Comment dire, ce sont des économies de bout de chandelle un peu ridicules. C'est comme si tu me disais réduire le nombre de pilotes dans le cockpit de l'avion, ça fait économiser du carburant. Je veux dire, c'est pas les 80 kilos du pilote qui vont faire quoi que ce soit en termes d'économie de carburant. Bah, c'est un peu pareil pour le nombre de députés et de sénateurs. Moi, j'ai jamais adopté cet argument-là de dire on va faire des économies sur l'Assemblée comme si l'Assemblée c'était ce qui coûtait cher dans un pays qui produit 1 000 milliards d'euros de richesse chaque année, quoi. Parce que, bon, non mais pourquoi pas, je veux pas être borné hein, sur ce sujet, mais j'ai dit combien? Non, 3 000 milliards, pardon, excusez-moi, 3 000. Oui, mais la dette, oui, non mais voilà, c'est ça. Donc, à ce petit jeu-là, je veux dire, si le but du jeu, de toute discussion sur l'organisation de la République, c'est d'économiser de l'argent, si on décide collectivement que notre problème, c'est un problème de pognon, bon, bah moi, j'ai envie de vous suggérer qu'on arrête la République, hein. Parce que, non, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Je veux dire, au bout d'un moment, vous croyez que ça coûte pas cher, l'état de droit, les tribunaux, là? Prenons un empereur, un dictateur, je sais pas, quelqu'un qui a raison. On décide collectivement de dire c'est lui qui a raison. Et on supprime toutes ces saloperies de Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Bon, voilà. Non mais si c'est ça le but du jeu. C'est pas vraiment une blague chez beaucoup de gens. Ouais, je sais. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais c'est toujours pareil, c'est enfin, c'est normal, ça fait partie du jeu en démocratie. Hein. Quand tu connais pas très bien et que tu vois ça de loin, Je pense que tu es plus prompt à avoir des avis plus tranchés et définitifs. Tu veux, moi, j'y connais rien à l'agriculture, par exemple. Je suis un Parisien, je suis un joueur de jeux vidéo. Voilà, l'agriculture, ça n'a jamais été mon truc. Donc, vu de loin, je trouve que les agriculteurs, ils devraient faire du bio, et puis voilà, c'est tout. Emballer, c'est peser. Putain, on n'a qu'à interdire les pesticides aussi, voilà. Bon, bah à peu près n'importe qui connaît un peu dans le détail les subtilités de l'agriculture et de ses évolutions sera vachement plus mesuré que moi sur une opinion de coin de table comme ça. Bah moi, voilà, moi mon truc à moi, c'est plutôt la politique. Donc quand j'entends parfois des propositions un peu radicales, bah. Et parfois, elles viennent pas forcément du chat, hein, faut pas croire. Emmanuel Macron, c'est lui qui propose de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Voilà. Après, la question se pose quand même, tout a un rapport coût-bénéfice, il faut bien arrêter un chiffre. Ok, non mais d'accord, alors dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me chiffrer le bénéfice de l'état de droit? Combien ça nous rapporte par an, ça? Il y a un moment, il faut passer à la caisse, là. Il faut qu'on commence à être un peu précis, on va parler chiffres. Ça rapporte combien le Parlement? Ça rapporte combien le bicaméralisme? Ça rapporte combien, c'est quoi le bénéfice d'un Conseil constitutionnel? €499 avec le bundle Mario Kart World. Exactement. Donc, pour autant, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut bien arrêter un chiffre, puisqu'on parle de la quantité de députés. Oui, on peut arrêter un chiffre. À ce moment-là, il faut avoir des méthodes de calcul qui soient jugées acceptables par beaucoup de gens, quand même. Si possible, une majorité. Donc, plutôt que d'arrêter un chiffre de nombre de sièges, on pourrait décider que le Parlement. On pourrait par exemple décider que l'Assemblée nationale représente un chiffre, une fraction de la quantité de la population. Voilà, comme ça peut tenir compte des évolutions. Après, rien ne coûte cher, tout est un coût additionné. Donc, si tu focalises sur un truc précis, forcément, tu vas dire ça coûte rien, ça représente 10 centimes par français, etc. Non, alors je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Moi, mon argument, ça n'a pas de dire que ça coûte pas cher. Ça n'a jamais été mon argument. Mon argument, c'est de dire il faut qu'on assume de dépenser de l'argent pour ça. Je veux dire, la politique, c'est pas sale. La démocratie, c'est pas sale. Le Parlement, c'est pas sale. On a la chance d'en avoir un de Parlement. Et ça coûte du pognon. Ça coûte du pognon. C'est pas gratos. Et c'est pas comparable à une entreprise. C'est pas comparable à je sais pas quelle organisation privée à but lucratif. C'est un Parlement. Donc, un budget d'un Parlement, ça s'estime à l'aune de l'utilité démocratique qu'apporte le Parlement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de système de contrôle. Par exemple, je considère que la Cour des comptes ferait mieux de mettre son nez un peu plus profondément dans les comptes de l'Assemblée nationale, mais pour des raisons de séparation des pouvoirs, elle ne peut pas le faire. D'accord, très bien. Je sais, voilà, pas très très bien, pas très très sûr que les questeurs soient pas contrôlés, ça m'énerve. Mais bon, moi, donc mon argument, c'est pas dire la démocratie, ça coûte pas grand-chose. Mon argument, c'est dire par rapport à ce que ça rapporte, franchement, c'est pas très cher. Sinon, les députés se financent eux-mêmes avec des capsules TikTok. C'est ça, c'est du financement participatif. Donc, pourquoi on est arrivé sur le pognon alors qu'on parlait de la proportionnelle, je me souviens plus. Comment on est arrivé là? Les autres systèmes de gouvernance coûtent de l'argent aussi, ça coûte cher un roi par exemple. Ah, moi je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Le nombre de députés. Ah oui, c'est ça, le nombre de députés, merci les amis. Oui. Mais en réalité, le nombre de députés, ça change pas grand-chose par rapport au mode de scrutin, c'est pas ça qui compte. Parce que tu peux avoir une majorité avec peu de députés ou une majorité avec beaucoup de députés. C'est pas... c'est des rapports mathématiques, donc c'est pas... voilà, c'est pas très important. L'anarchie, ça coûte rien. Ouais. Je préfère payer qu'avoir un roi qui décide. Oui, non, d'autant que s'il y avait un roi qui décidait, tu paierais quand même. C'est-à-dire que le système s'auto... le système s'auto-alimente. C'est plus simple d'introduire une dose de proportionnelle avec beaucoup de députés quand même. Oui, enfin, oui, c'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. C'est au bout d'un moment, plus tu réduis, plus c'est absurde. Salut Nérou, des bisous. Plus simple d'introduire une dose proportionnelle avec beaucoup plus de députés. Ouais, ouais, non, effectivement, c'est plus tu réduis le nombre de députés, plus ça devient complexe. Effectivement, effectivement. Non, je sais pas, c'est à suivre. En tout cas, ce que ça indique, je suis content parce que ce que ça indique, c'est qu'il est possible qu'à l'automne prochain, on ait des discussions sur le mode de scrutin. Mais ça implique quand même l'absence de dissolution d'ici là. Donc, je vous pose la question à vous, chers amis. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée nationale cet été? Qu'il y soit contraint ou pas? Non. Ok, il y a une grosse majorité de non, semble-t-il. Septembre plus tôt. Petit sondage, les modos. Ouais, je vais faire un sondage, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je fais le sondage. Alors, ça dissout cet été, tu crois? Ouais, nope. Vous avez 2 minutes pour voter. Allez-vous. Voilà, le sondage a été lancé. Il s'affiche en haut du chat. Vous cliquez, vous votez et vous me dites si d'après vous, cet été, il y a moyen que ça dissolve. Sachant que vous remarquerez que la manière que je vous ai de poser la question, que j'ai de vous poser la question, c'est que je ne vous dis pas si c'est une dissolution volontaire de Macron, comme la dernière, ou une dissolution involontaire. Peut-être Macron, il va être forcé de le faire. Hein. L'été s'arrête à quelle période? Septembre ou octobre? Bah, moi, je pensais à la période qui réouvre la possibilité d'une dissolution et d'une dissolution, oui, c'est ça. Putain, si ça dissout en juillet, ça veut dire qu'on va voter en août. Oh, bah non! Mais Macron, attends, parce que si on dissout en août, les macronistes, ils vont faire un très mauvais score. Parce que tous leurs électeurs, ils seront à la boule. À la balle. Hein, c'est compliqué, hein. Mais l'autre question qui est intéressante, c'est dans quelle mesure est-ce qu'Emmanuel Macron serait forcé de dissoudre l'Assemblée en cas de censure. Parce que je vous rappelle qu'une censure n'implique pas nécessairement une dissolution. Une censure n'implique que la démission du gouvernement. Emmanuel Macron, si d'aventure François Bayrou était contraint de présenter sa démission à l'issue d'un vote de censure à l'Assemblée, Emmanuel Macron pourrait essayer de trouver une autre majorité relative. Donc ouais, vous êtes 66% à dire que ça, il y a peu de chances que ça dissolve cet été. Moi, je sais pas si je suis d'accord avec vous, j'en sais rien, j'arrête pas d'y réfléchir et j'ai toujours pas tranché. Il dissout si le PS refuse toute coalition de gouvernement les incluant. C'est déjà le cas, hein. Le PS ne participe pas à la coalition gouvernementale aujourd'hui. Donc, peuvent pas compter sur le PS, sur tous les votes. Sur une abstention, sur un vote de budget, ça a déjà été le cas une fois. Mais du reste. Macron, il s'en tape du PS. Alors, il en a besoin quand même. Donc il s'en tape pas plus que ça à Macron quand même, du PS. En tout cas, il en a eu besoin pour faire passer le budget 2025. Est-ce que le sujet, ce serait pas encore le congrès du PS et son dénouement? Mais pas nécessairement, parce que, en fait, le congrès du PS, c'est bien gentil, mais le congrès du PS, ça désigne, ça implique le PS, voilà, et son avenir. Mais actuellement, les socialistes, ils ont déjà des députés. Donc, si Emmanuel Macron veut former une nouvelle coalition plus ou moins à même de gouverner, on va retourner voir mon simulateur de coalition préféré. Vous commencez à le connaître, hein. Zou. Aujourd'hui, la coalition, c'est Droite républicaine, Horizon, Ensemble, Modem, et c'est tout. Ça, c'est la coalition actuelle qui a 210 députés et qui soutiennent le gouvernement. Plus ou moins, mais plus que moins moins. Si demain ça se casse la gueule, ce qui est toujours possible. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut gouverner avec l'extrême droite? On va regarder. RN, UDR, Droite républicaine, Ensemble, Horizon en partie. Oui. Le problème, c'est qu'Ensemble, il y en a beaucoup qui ne voudront pas s'allier au RN et à l'UDR. Donc, à mon avis, mettons qu'il y en a une quarantaine, tu vois, t'as toujours pas de majorité. Et en face, tu as une opposition qui est potentiellement solide. Donc à mon avis, bon, ça paraît bizarre. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait essayer d'aller chercher à gauche? Bon courage, hein. Mais si tu mets communiste, alors je sais qu'il ne mettrait pas LFI, Emmanuel Macron par principe, socialiste, Modem, Ensemble. Et ensuite, toute la question est de savoir quelle est la capacité à aller chercher du Horizon ou du Droite républicaine. Mais ça, c'est pas majoritaire, hein. C'est pas majoritaire. C'est après. Ça peut être une majorité relative suffisamment stable. Parce que dans une situation comme celle-ci, la France insoumise, ils vont pas censurer ça. Je crois pas, hein, que la France insoumise censure une alliance. Ils la critiqueront, certainement. Ils déposeront des amendements. Ils expliqueront plein de trucs, mais je suis pas sûr qu'ils censurent ça, hein. Parce que censurer, ça impliquerait de voter avec le RN, hein. Après, enfin, je veux dire, les insoumis, vous vous souvenez de comment ils sont tombés à bras raccourcis sur le PS, qui n'avait pas censuré et que du coup c'était une nouvelle alliance entre Olivier Faure et Marine Le Pen. Je suis pas sûr que la France insoumise assume de voter avec l'extrême droite pour faire tomber un gouvernement, de gauche molle. LFI, ne pas censurer le PS, impossible. Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la détestation. Des socialistes par la France insoumise, c'est essentiellement sur Internet, hein. La réalité sur le terrain, c'est que les insoumis et les socialistes, ils ont besoin les uns des autres. Dans des élections au scrutin majoritaire, donc. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans la bouche du coordinateur national de la France insoumise. Vous vous souvenez, Manuel Bompard, quand il est venu sur le plateau de Baxit? Vous étiez là, vous vous en souvenez? Il n'a pas tapé à bras raccourcis sur le PS. Parce qu'il n'en a pas envie et qu'il n'en a pas besoin. Donc vraiment, hein, le hashtag plus jamais PS, c'est plus un truc de Twitter. qu'un truc que tu retrouves à l'Assemblée. LFI, il joue sa carte anti-système jusqu'à l'extrême, c'est eux ou rien. Ben, je suis désolé, mais c'est factuellement faux. Non, la France insoumise n'est pas un parti extrémiste, comme tu dis. La France insoumise, ils ont fait des accords avec les socialistes pour se faire élire. Je veux dire, on a vu mieux comme extrême gauche quand même. Ben, je veux bien, mais... Parce que Manuel Bompard, c'est le plus mesuré de tout LFI. C'est surtout le coordinateur national du parti et c'est lui qui mène les négos avec les socialistes. Donc Manuel Bompard, voilà, il a besoin de ménager son partenariat avec les socialistes pour garantir que la France insoumise continue à avoir un nombre de députés suffisant pour changer la donne. Bompard est surtout très proche de Mélenchon. Oui, mais ce que je vous dis, c'est pas personnel. Enfin, je veux dire, c'est pas Manuel Bompard qui, dans son petit cœur, aime bien les socialistes et les protège. Je psychologise pas l'analyse, hein. C'est juste que rationnellement, dans un scrutin majoritaire par circonscription, les insoumis comme les socialistes ont besoin de bien s'entendre. Parce qu'au bout du bout, s'ils se présentent les uns contre les autres, en l'état actuel des choses, ils risquent de tout perdre. Tous les deux. Donc, parfois ta base militante, elle te chauffe en te disant ouais, vas-y, on les déteste, c'est des connards, etc. Toi, tu leur dis ouais. Ouais, enfin, allez-y, mollo quand même, parce que. Et ça, ce que je dis, c'est valable au PS, hein. C'est exactement pareil, moi. C'est-à-dire que moi, je regarde actuellement, vous vous en doutez, le congrès du Parti Socialiste. Je vois bien les analyses qui sont proposées. Je vois bien Carole Delga, François Hollande, Maya Rossignol, Bernard Cazeneuve, même s'il est à l'extérieur, Karim Bouamram, etc., qui t'expliquent tous que, ouais, il faut en finir avec Olivier Faure, il faut en finir avec Olivier Faure et faire renaître le Parti Socialiste. Très bien. Mais vous croyez que le Parti Socialiste, s'il vous intéresse tant aujourd'hui, c'est grâce à qui, en fait? Genre, en fait, pardon, mais c'est un peu Olivier Faure qui a fait remonter le PS. Non, pas tout seul comme un grand avec ses petits bras. Évidemment qu'il y a des circonstances, il y a des coalitions, il y a des machins. Mais justement, Olivier Faure, il a fait des alliances avec la France Insoumise. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour le PS, quand même, vu le nombre de députés que vous avez aujourd'hui. Quasiment à égalité avec les Insoumis. Donc, moi, le côté, il faut en finir avec le faurisme pour redonner naissance à un parti socialiste triomphant. Les gars, enfin, vous avez vu d'où vous partiez à l'époque? Pardon, mais pas fait du mauvais boulot, Olivier Faure, hein. Juste en termes de progression du PS. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis, quand t'as ta base militante qui te chauffe en disant plus jamais Mélenchon, plus jamais Mélenchon, ouais, c'est des extrémistes, c'est des méchants et tout, machin, on n'est pas comme ça et tout. Bah, moi, je serais premier secrétaire du PS, je les regarderais, je leur disais, ouais, camarades, vous pouvez y aller mollo un petit peu, s'il vous plaît, sur les injures sur nos partenaires. Je vous rappelle qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, hein. Donc voilà. Donc ceci explique pourquoi, sur le plateau de Baxit, Manuel Bompard et Olivier Faure, ils se ménagent l'un l'autre parce que, encore une fois, ils sont à la tête de leurs partis respectifs et donc ils ont bien conscience de qui a besoin de qui, quoi. T'es un casseur d'ambiance. Mais oui, je suis un casseur d'ambiance, évidemment. Justement, Faure, il a fait du bon boulot, mais il est temps de passer à autre chose pour continuer à grandir. Ok, peut-être. Non, mais peut-être. Faudra juste m'expliquer comment fait le PS pour grandir sans la France insoumise dans des élections au scrutin majoritaire, c'est tout. Parce que à ce petit rythme-là, vous savez ce qui va finir par se passer? On va se retrouver à la présidentielle avec un candidat insoumis qui fait 10% et un candidat PS qui fait 10%. Bravo, bravo. Très belle réussite. C'est formidable. Donc on est de nouveau dans l'opposition pour 5 ans. Ouais. Non, super. Ça serait très drôle. Bah ouais, moi je rigolerais, mais je rigolerais jaune, tu vois, pour les gens de gauche. Je me dis, c'est quand même dommage pour eux, hein. Le scrutin proportionnel, ça signifierait la fin du NFP selon toi? Oui. Mais oui, parce que le nouveau Front Populaire, je vous rappelle ce que c'est encore une fois, le nouveau Front Populaire, c'est une alliance électorale entre quatre partis politiques qui se sont mis d'accord sur la répartition des circonscriptions pour savoir quel parti présente un candidat dans quel circo. C'est ça le nouveau Front Populaire. Si vous faites un scrutin proportionnel, c'est ça, je cherchais la suite. Si vous faites un scrutin proportionnel, vous retirez, vous n'avez pas besoin de faire des accords avant le premier tour. Chaque parti présente sa liste. Et chaque liste se retrouve représentée à sa juste proportion à l'Assemblée. Donc, dans le cadre d'une élection proportionnelle, il y a moins besoin de faire des alliances. Je mets une petite astérisque quand même, parce que ça peut dépendre des types de proportionnels. Il y a des proportionnels dans lesquels ça peut quand même être intéressant de se mettre d'accord. C'est notamment le cas des proportionnels à deux tours. Vous sonnez tout à l'heure, là, plutôt dans le stream, où je vous ai dit que il suffit de laisser les candidats se présenter au premier tour et au second tour, on fait des fusions de listes. Et ben, c'est exactement ça, une fusion de listes au second tour, sur la base de quelle discussion? Et donc, il peut y avoir à nouveau, localement, des alliances. Peut-être, par exemple, que dans le département A, le PS et LFI se détestent, donc ils ne veulent pas faire alliance, donc ils se plantent tous les deux au second tour. Mais dans le département B, les insoumis et les socialistes se mettent d'accord en se disant c'est quand même trop con, vu la puissance qu'on peut représenter, on fait une fusion de listes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que si la gauche est au second tour, le RN gagne le second tour. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que c'est des scrutins de liste. Donc en fait, le RN gagne en nombre de voix et donc en nombre de députés, certes, mais le PS n'est pas éliminé. Ce qu'il faut bien comprendre, la différence entre une proportionnelle et un scrutin majoritaire, c'est que dans un scrutin majoritaire, il n'y a qu'un gagnant à la fin et tous les autres sont éliminés. Dans un scrutin proportionnel, il y a un des groupes, un des partis politiques qui a effectivement un grand nombre de bulletins, mais les autres existent aussi. Ils sont aussi représentés. Par exemple, dans un département, on pourrait avoir 5 députés du département RN, 2 députés macronistes et 7 députés de gauche. Voilà. Et des députés de divers gauches, de différentes gauches. C'est ça que je veux dire. Tout le monde gagne ce qu'il a obtenu. Exactement, c'est très bien dit. Chacun gagne ce qu'il a obtenu. Donc, si tu représentes 30% des électeurs en France, au bout du bout, tu es censé avoir à peu près 30% des sièges à l'Assemblée. Oui, donc le RN finit quand même par gouverner. Tu peux pas empêcher la victoire du RN en tripatouillant le mode de scrutin. C'est-à-dire qu'à un moment, si les Français, si les électeurs décident que c'est le RN qui doit gouverner, c'est le RN qui va gouverner. Ça, c'est la froideur des chiffres d'une élection. C'est mathématique, c'est bête et méchant. Donc, en l'occurrence, un scrutin proportionnel n'est pas la garantie d'une absence de gouvernement d'extrême droite. Et ça ne le sera jamais. Moi, j'ai quand même grandi pendant des décennies, on m'a expliqué. À la fac, on m'a expliqué, à Sciences Po, j'ai entendu, j'ai pas fait d'études à Sciences Po, mais je suis allé à des colloques à Sciences Po, j'ai entendu des gens en costume-cravate nous expliquer que le scrutin proportionnel par circonscription, c'était un formidable barrage contre le Front National. Pendant très longtemps, c'était une idée qui était validée par tout le monde. C'était, oh non, c'est quand même bien. Ça permet de limiter la capacité du FN à avoir des députés, par opposition à 86 la proportionnelle, avec des députés qui ont divisé la droite entre le FN et le RPR, quoi, une partie de l'UDF. Donc voilà, donc moi on m'a appris ça, et puis là, force est de constater dans les années 2020 après Jésus-Christ que c'est plus vrai, voilà, c'est plus vrai. Ça l'a été pendant des décennies. Pendant des décennies, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le scrutin majoritaire n'empêche plus le RN de faire des dizaines de députés à l'Assemblée. Alors, ils ne sont pas encore à une majorité absolue, mais en tout cas, ils sont présents en très grand nombre. Par contre, ce serait encore plus la merde pour la constitution des groupes à l'Assemblée avec la proportionnelle, sauf à mettre un seuil minimal pour être représenté à l'AN. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a un seuil minimal pour avoir un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Le seuil, il est fixé à 15 députés. Mais on peut le changer, le seuil, hein. Il suffit de changer le règlement. Est-ce qu'il y aurait une grande différence entre une proportionnelle régionale ou départementale? Non, parce que, enfin, non, en fait, le modèle départemental est un modèle mixte, comme au Sénat. Je vous rappelle que les circonscriptions électives au Sénat, ce sont les départements, justement. Donc, la proportionnelle par département te permet d'avoir des modes de scrutin différents par département selon leur quantité de population. En revanche, si tu fais des proportionnelles régionales, là, tu as le même mode de scrutin dans toutes les régions de France. Pourquoi pas, hein? C'est d'ailleurs la proposition des écologistes. Je vous parlais de Mélanie Vogel tout à l'heure. Si elle n'a pas changé d'avis depuis la dernière fois que je l'ai entendu en parler, les écologistes plaident pour un modèle qui serait un modèle de proportionnel par région. En 2025, Jean pense encore que Sciences Po a une quelconque légitimité de pensée. La moitié des cons qui sortent de là n'ont pas lu Marx, MDR. Ils pensent parler de politique MDR. D'accord. Bah, fais-nous la lecture. Fais-nous la lecture, s'il te plaît. Mets-toi au micro et donne-nous la lecture des Saintes Écritures. Parce que nous, on est cons. On est quand même des gros débiles. Eh ben, bah, gros cerveau, hein. Il faut supprimer les régions et le Sénat. La France, c'est les communes, les départements et l'Assemblée nationale. Ah ouais, c'est... Ah, c'est raide un peu. C'est quand la primaire macroniste? Ben, je sais pas. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition qui a été faite dans le débat public par Alain Minc qui dit, et il a raison, que en l'état actuel des choses, si on regarde le sondage de l'IFOP de la semaine dernière, quel que soit le cas de figure, il y a un macroniste au second tour. Que ce soit face à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, les Français placeraient, si les élections avaient lieu demain, les Français placeraient soit Gabriel Attal, soit Édouard Philippe, en fonction des scénarios, au second tour de l'élection. Et ce que dit Alain Minc est assez juste, il fait le constat que les Français sont pas d'accord sur l'incarnation, les macronistes, pardon, ne sont pas d'accord sur l'incarnation. Dès lors, il faut une incarnation commune. Et selon Alain Minc, seule une primaire permet de désigner une incarnation à même d'arriver au second tour. C'est-à-dire que là où je reconnais qu'Alain Minc a raison, c'est qu'une primaire ne gagne pas à tous les coups. Ça se saurait. De la même manière qu'une absence de primaire ne garantit pas une victoire à tous les coups. Ça se saurait aussi. C'est plus compliqué que ça. La primaire n'est qu'un outil à un stade particulier d'une dynamique particulière. Là, la dynamique, elle est déjà, semble-t-il, assez bien présente. On parle d'un camp politique qui est d'ores et déjà à même de se qualifier au second tour. Ce qui peut donc justifier effectivement le fait d'avoir un scrutin de type primaire pour désigner l'incarnation de cette dynamique. En revanche, un parti qui n'a pas de dynamique favorable, le fait d'avoir une primaire va pas changer grand-chose. C'est ce qu'on avait vu avec les écologistes, par exemple. C'est ce qu'on avait vu avec les socialistes en 2017 aussi. La primaire n'est pas une baguette magique qui te permet de régler tes différends en interne, de trancher tes débats idéologiques et en plus d'avoir une incarnation forte pour la présidentielle. Tu peux pas tout faire. Faut pas demander à la primaire de tout résoudre, elle ne le peut pas. Elle en est incapable et voilà. On parle des primaires pour élire le futur pape? Non. Les macronistes sont finito, ils ont trop merdé pendant 7 ans. Ouais. Oui. Bon, tu m'accorderas que j'ai entendu la même chose en 2022. Les gens qui disaient ils sont finito, ils arriveront jamais à être réélus, ils ont trop merdé pendant 5 ans. Parfois, c'est surprenant la vie politique française, malheureusement. Ou heureusement, d'ailleurs, ça dépend comment tu te places. Faudrait une primaire à la proportionnelle. Ben non, tu peux pas. La proportionnelle, c'est une élection qui permet de composer une chambre, pas d'élire un représentant. Donc ça ne peut être qu'un scrutin de type majoritaire. Alors après, tu peux organiser des scrutins différents avec des modalités de scrutin différentes, y compris dans la manière de compter les bulletins. Au jugement majoritaire, par exemple. Oui, au jugement majoritaire, par exemple, qui plaît beaucoup aux écologistes, notamment, qui plaît beaucoup aux macronistes, qui est absolument détesté par les insoumis. Et le Rassemblement national, à ma connaissance, ils n'ont pas d'avis sur la question, parce qu'ils ne se sont jamais vraiment prononcés sur le truc. Tu as le système de Condorcet aussi, qu'on appelle aussi le système François Bayrou. Ça, c'est les bayrouistes qui défendent le truc de Condorcet. Parce que c'est un classement des candidats du premier au dernier. Chaque électeur classe tous les candidats, on fait la meilleure moyenne. Et la raison pour laquelle c'est le truc de François Bayrou, c'est qu'en 2007, François Bayrou, si le scrutin s'était porté avec un mode de scrutin Condorcet, François Bayrou était président de la République dans tous les cas de figure. Donc c'est à partir de 2007 qu'on a commencé à en parler en France du scrutin de Condorcet, dans les innovations qui étaient portées par le MoDem à l'époque, enfin par l'UDF à l'époque, puis le MoDem, il y avait le scrutin de Condorcet, en disant il faut qu'on innove sur le mode de scrutin en France. Et c'est à partir de là que ça vient. Ça favorise le centre. Bah oui, ça favorise le centre, ça favorise une personne consensuelle. Tu pourrais élire un collège d'électeurs à la proportionnelle qui ferait un conclave pour élire un candidat. Ouais, ça s'appelle l'élection du président de la République au suffrage universel indirect. Comme ça existait avant, avant 1962. C'était les grands électeurs qui élisaient le président de la République. Il y a des dizaines de manières de voter, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Oui, je suis d'accord avec toi. D'autant que, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que la crise de la démocratie n'avait pas de solution mécanique. C'est pas parce que tu changes la manière qu'on a de compter les bulletins que les gens viennent voter. Ou que les gens se mettent à aimer la politique. Ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué. Ça peut être un argument intéressant. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais été fermé par principe, mais je suis pas non plus un idolâtre de la réforme du mode de scrutin. Pareil pour les proportionnelles, hein. Faut pas croire que les Français vont tous aller voter parce qu'on va passer à la proportionnelle, hein. Je propose qu'il n'y ait qu'un seul papier à mettre dans l'enveloppe, comme ça, pas de problème. Ouais. Ça reste un concours de popularité. Bah, c'est une élection. Avec tous ses avantages et tous ses inconvénients, mais c'est une élection. Est-ce que le mode de scrutin peut changer le discours et l'offre politique? Marginalement, oui, parce que... Est-ce que vous savez pourquoi la règle du hors-jeu au foot existe? À quoi elle sert la règle du hors-jeu? Vous la connaissez la règle du hors-jeu? On ne peut pas faire une passe à un attaquant qui se trouve derrière le dernier défenseur de l'équipe adverse. Cette règle n'est pas une règle de sécurité. Il y a des règles de sécurité au foot. Vous n'avez pas le droit de faire des tacles à la cheville, vous n'avez pas le droit de mettre votre pied au-dessus de la ligne du bassin ou des épaules, je sais jamais. Voilà, ça c'est pour la sécurité des joueurs. Tout à fait acceptable et tout. La règle du hors-jeu est une règle qui existe simplement pour dynamiser le match, pour rendre le sport sportif. Si vous retirez la règle du hors-jeu et que vous faites jouer des joueurs de foot, chacun des deux équipes va placer des attaquants près du but adverse et juste attendre de recevoir une balle longue, une passe longue, pour tenter un tir. Ça tue le jeu. Ça tue le foot. La règle du hors-jeu est une excellente règle pour garder en mémoire le fait que la règle implique les comportements des acteurs. C'est parce que la règle est de telle manière que les acteurs se comportent de telle manière. Tu changes la règle, ça a une incidence sur la manière dont que vont avoir les acteurs de se comporter. Et bah, les règles électorales, c'est la même chose. Les règles électorales ont des incidences sur le comportement des acteurs. Si vous faites un scrutin majoritaire à un seul tour pour élire les députés, vous faites exactement ce que font les Britanniques, c'est-à-dire que vous fabriquez un paysage politique bipartisan. C'est très très difficile d'exister en tant que petit parti dans un paysage politique où c'est winner takes all dès le premier tour. Les États-Unis aussi ont un système bipartisan, critiqué depuis très longtemps aux États-Unis, mais qui continue à fonctionner comme ça parce que c'est le seul moyen d'avoir une alternance politique. Si par contre vous faites un scrutin proportionnel intégral, imaginez par exemple vous faites une élection proportionnelle intégrale nationale à un seul tour. Genre, les Français se déplacent pour aller glisser un bulletin dans une urne, pour voter pour une liste. Et on répartit à la proportion des voix le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Là, on incite fortement les partis politiques à se présenter, mais tous, quoi. Le maximum de partis peut se présenter. Pardon. Parce qu'il suffit de faire 2% pour avoir un siège à l'Assemblée. Bon, alors là, c'est tous les mecs un peu connus, c'est gratos. Là, t'as Dominique de Villepin qui se présente avec son parti. T'as Cyril Hanouna, t'as, enfin, je veux dire, là, tu peux y aller, hein. Donc, voilà, donc typiquement, le scrutin proportionnel peut inciter les partis à se diviser. À l'inverse, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours par circonscription qu'on a actuellement incite les partis à faire des alliances. Hashtag NUPES, hashtag NFP. Rappelez-vous, regardez, est-ce que vous vous souvenez des élections législatives de 2017? Hop. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous présente l'Assemblée nationale issue des élections législatives de 2017. Pourquoi le PS, les communistes et les insoumis se sont autant rétamés la gueule? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas fait alliance. Ils n'ont pas fait alliance. Ils se sont retrouvés comme des connards dans les circonscriptions, à se présenter les uns contre les autres. Division des voix, pas de qualification au second tour. C'est le macroniste du coin qui a été élu. Voilà. Maintenant, si on va regarder les élections législatives de 2022. Doum, 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 doum. Salut Elisabeth Borne. Boum! Regardez qu'est-ce qu'on a à gauche là. Ben, ça s'appelle la NUPES, ça. Je reconnais. Les insoumis qui sont très nombreux parmi les députés de gauche, un groupe écolo, un groupe socialiste, un groupe communiste, ça commence à reprendre des couleurs. Ça, c'est le fruit de la NUPES. Est-ce que tu penses que la NUPES peut tenir longtemps? La NUPES? Je pense qu'elle peut tenir jusqu'en 2024 à peu près. Et maintenant, si on regarde le résultat des élections législatives. Hop! De 2024, la gauche a encore plus pris des couleurs. Avec les socialistes et les LFI qui sont presque au même nombre de députés, les écologistes qui sont toujours là, les communistes qui sont toujours là. Et ça, vous vous souvenez, si on retire. Hop. La gauche, c'est 190 sièges. Alors, ça dépend comment on compte, mais pour faire simple, on va dire 192, on va dire 200, on va arrondir à 200. Bah, moi, je trouve ça pas mal. Réussir à passer de ça à ça, pour la gauche, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que on peut considérer que la gauche est en dynamique. Si on regarde depuis 2017, la gauche ne fait que prendre des couleurs. Alors attention, il n'y a pas que la gauche qui prend des couleurs. Il y a aussi le Rassemblement national. Faudrait pas faire l'erreur de dire cocorico, la gauche va gagner demain. Et aussi le RN. Et ça c'est dû à l'érosion en partie du macronisme. Alors ça, c'est clairement. Ça, c'était le macronisme triomphant en 2017. Ça, c'était le macronisme qui tire un peu la tronche en 2022. Alors, pour être honnête, il faut rajouter le MoDem et Horizon. Horizon, ils sont là, pardon. Le MoDem et Horizon. Et il y avait l'UDI aussi. Et aujourd'hui, bon, bah voilà, ils tirent un peu la tronche, hein, les mecs. Ils ont à peu près autant de députés que la gauche. Ah, pardon, excusez. Pardon, excusez-moi. Ah non, pardon. Oh non, le choke. Le choke du joueur français. J'étais en train de vous dire que si on regarde. Ça, c'est 2017, le macronisme triomphant. Ça, là, jusque-là, avec Horizon et tout. Tu vois. Horizon n'existait pas à l'époque, mais voilà. 2017, incroyable. 2022, le macronisme commence à tirer la tronche et commence à se faire grignoter à gauche et à droite par la gauche plurielle et le RN. Et enfin, le macronisme d'aujourd'hui. Voilà, qui se retrouve là, coincé entre les deux gros blocs. En gros, il y a trois grands groupes, NUPES, macronisme et RN. Exactement. Exactement. Mais le RN, attention, hein, je vous rappelle que là, ils ont 124 députés avec leurs alliés, ça fait 140. Ils ont 140 députés, le RN. En 2017, ils en avaient zéro, hein. Enfin, je crois qu'il y avait Marion Maréchal qui avait un siège. Il y en avait genre un ou deux, tu vois. Donc le RN, c'est la force nouvelle. Tiens, d'ailleurs, je vais plutôt aller sur Wikipédia. Tchoum, 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 tchoum. Salut Gabriel Attal. Voilà. Donc, attention, méfiance. Attention, méfiance, parce que certes, la gauche est en dynamique, mais l'extrême droite est aussi en dynamique. Qui c'est qui va gagner à la prochaine? Si la gauche est unie, elle peut gagner. Si la gauche est désunie, je parle bien des législatives, attention, hein, je parle bien des législatives. Si la gauche est désunie, c'est à peu près certain que le RN gouverne le pays. Bon, à voir quoi. Crois qu'il y a une chance que le RN se fracture avec l'inéligibilité de Marine Le Pen. En fait, j'en sais rien, c'est une bonne question. J'ai l'impression que le RN a été surpris et a mis un genou à terre avec la condamnation de Marine Le Pen. On les sentait un peu tout feu tout flamme dans les premiers jours. J'ai l'impression qu'ils se calment là, les RN, qui veulent pas devenir extrémistes et tout, donc ils essayent de se calmer. Je pense que Marine Le Pen va avoir l'intelligence de préparer la suite avant la décision de la cour d'appel. Aucune chance que le RN gagne, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter. Et alors? Je parle bien des législatives, hein, je parle pas des présidentielles là. Je parle des législatives. Il y a moyen qu'on ait un candidat de gauche, quelle que soit la gauche, qui soit élu président de la République, ok, et un mois plus tard, le Rassemblement national qui remporte les élections législatives. C'est possible. C'est tout à fait possible. Paye ta coalition. Jean-Luc Mélenchon, président de la République, Jordan Bardella, Premier ministre. L'inverse aussi. L'inverse aussi est possible, ouais, c'est vrai. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, président de la République, et François Hollande, Premier ministre. Si, ça va être drôle. Non, la cohabitation va être marrante. La cohabitation va être marrante. Enfin, moi, ça me fera pas marrer, hein, parce que avoir un président de la République garant de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice RN, ça m'amuse pas du tout. Et dans l'autre sens, avoir un premier ministre, chef de gouvernement, qui définit la politique de la nation, qui arbitre entre les ministères qui viennent du RN, ça me fait pas marrer non plus. Comment en 2025, le fait d'être condamné, ce n'est pas un red flag pour être élu président? Parce que c'est un red flag pour tes opposants, mais pas pour tes partisans. C'est toujours pareil, en fait. Les aficionados de Marine Le Pen, ils sont toujours aficionados de Marine Le Pen, ils n'ont pas changé. C'est pas parce qu'elle a été condamnée qu'ils vont changer. Au contraire, Ils passent leur temps à dire que c'est la faute de la justice, les juges rouges, c'est la faute à Mediapart ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est tu te fabriques un narratif qui te permet de passer outre la condamnation. Voilà. Bah, regarde, enfin, le fait que Jean-Luc Mélenchon ait été condamné par la justice, je suis sûr qu'il y en a un paquet d'entre vous, ça vous a pas empêché de glisser un bulletin à son nom dans l'urne, hein. Bon, bah, c'est bien la preuve que la condamnation, elle est vue différemment par les camps politiques. Après, est-ce que, par contre, il y a un truc où effectivement ça peut être chiant une condamnation, c'est que certes ça va pas avoir beaucoup d'impact sur tes partisans, mais ça peut avoir un impact sur tes marges de progression. C'est-à-dire qu'en politique, il y a toujours les gens qui voteront toujours pour toi, les gens qui voteront jamais pour toi, et les gens entre les deux qui savent pas trop. D'accord? Ta stratégie politique doit toujours, toujours être de parler à ceux qui sont entre les deux. Il faut pas parler à ses partisans, on s'en branle. Les partisans, ils sont déjà d'accord avec toi. Voilà, sauf en période de congrès où là, il faut leur parler, mais tes partisans, ils sont d'accord avec toi. C'est pas à eux qu'il faut pas essayer de les convaincre. Les gens qui te détestent, qui ne voteront jamais pour toi, c'est pas la peine d'aller leur parler. Hein. C'est pas grave. Hein. Mec, ils t'aiment pas et il n'y a aucun scénario dans lequel ils glisseront un bulletin avec ta tronche dans l'urne. Donc, ciao, bye bye. Ceux sur lesquels tu dois te concentrer, c'est sur les hésitants, les modérés. Enfin, modérés, c'est pas le bon terme, parce que modéré, c'est plus un positionnement, mais les indécis, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, les indécis. Bon, bah, les indécis, ils peuvent être un peu chafouinés que tu sois condamné par la justice. Ouais, les abstentionnistes aussi, oui, les abstentionnistes. Mais les abstentionnistes, je les place dans ce grand magma des indécis. Et c'est vrai que les abstentionnistes sont d'autant plus durs à aller chercher qu'ils n'ont même pas prévu d'aller voter a priori. Donc c'est pas facile. Sur quelle base tu t'appuies pour affirmer que les électeurs RN ne changeront pas de vote? Ça, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Je regarde les sondages sur l'IFOP, notamment le dernier sondage de l'IFOP qui a montré que la condamnation de Marine Le Pen n'a rien changé aux intentions de vote pour Marine Le Pen. Comment tu peux mettre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur le même plan en termes de condamnation? Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont tous les deux été condamnés par la justice pour des raisons totalement différentes, pour des délits complètement différents. Dans les deux cas, on constate que leurs partisans n'ont pas été choqués. Ce qui est normal, je vous explique pourquoi. Il y a une différence entre le détournement de fonds et la rébellion. Pas pour les adversaires de Jean-Luc Mélenchon, hein. Je suis désolé. Enfin, il y a des gens dans ce pays qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon. Quand ils ont vu Jean-Luc Mélenchon crier sur un policier, La République, c'est moi, eh ben, il l'aimait encore moins. Et ensuite, quand il a bousculé un procureur, pareil. Tu vois, moi, je suis comme vous. Moi, je suis comme vous. Je suis pas anti-Mélenchon. J'en ai rien à foutre, par ailleurs. Mais. Mon opinion ne change pas en fonction des cris de colère de Jean-Luc Mélenchon et tout. Mais ça, c'est mon point de vue. Il y a des gens que je connais par ailleurs, certains, ils sont pas du tout comme moi. Eux, ils considèrent que c'est intolérable, que Jean-Luc Mélenchon est un fou furieux, qui passe son temps à hurler, etc. Moi, j'essaie de leur dire, non mais les gars, enfin ça va, pas déconner non plus. Bon, bah voilà, on n'est pas d'accord. Sauf que politiquement, c'est réel ce qu'il disait. C'est un point de vue, dirons-nous. C'est pas une question de qualification de rébellion, mais attaquer le pouvoir judiciaire comme fait Mélenchon, c'est grave. Oui. Mais c'est encore. Oui, non, non, mais je suis d'accord, c'est toujours une question de point de vue, mais les insoumis, ils pourraient te répondre un long argumentaire pour te dire que perquisitionner un parti politique d'opposition, c'est pas neutre non plus. Et ils ont raison, objectivement, ils ont raison. C'est plus grave que détourner 4,5 millions. C'est aussi grave pour les gens Encore une fois, je parle des gens qui détestent Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là, de toutes les manières, pour beaucoup d'entre eux, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Moi, ça me hérisse le poil d'entendre ça, mais il y a des gens pour qui c'est une évidence. Les extrêmes, c'est le fameux les extrêmes. Bon, bah, c'est très très dur de lutter contre ça. Peut-on être dans un parti et être objectif? C'est ça la question. Non, on ne le peut pas et c'est pas grave. C'est pareil, l'objectivité n'est pas un but en soi. C'est très bien la subjectivité hein, en politique. Je veux dire, ça a du sens, c'est porteur de sens. C'est très bien de militer dans un parti, c'est très bien d'avoir des idoles. Bon, après, le mot idole est peut-être un peu fort, mais d'avoir des hommes et des femmes politiques qu'on soutient contre vents et marées et tout. Je veux dire, ça fait partie de la vie politique. C'est pas. Je suis pas tout à fait pour séparer la population en deux, entre les personnes qui sont détachées et objectives et les personnes qui sont bêtement militantes. Bah. C'est plus compliqué que ça. Il y a la subtilité entre les deux. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon et sa façon d'être font fuir certains. Je vois peu d'hommes politiques aujourd'hui avec la carrure d'un président. Beaucoup ont des réflexions bas du front. Mais c'est celui qui gueule qui fait peur. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on en discute un jour de la notion de carrure. J'en discutais encore avec quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps qui me disait « Ouais, mais il n'a pas la carrure. » Je dis, mais en fait, c'est quoi la carrure en fait? On peut en parler 2 minutes de ça? Ça veut dire quoi? Cette espèce de perception un peu éthérée de le président doit être un homme. Déjà, c'est toujours un homme. Il doit être mûr. Il doit être... Ouais. Je sais pas. Charisme. Ouais, mais pareil pour le charisme, tu vois. Quelqu'un qui fait des bons discours est un bon président. Ah bon? À quel moment? Ouais, la stature, l'envergure. C'est vraiment des mots que j'entends comme ça, un peu balancés. Un peu balancés à la volée en parlant des candidats à la présidentielle en disant ah, oh, mais lui, il n'a pas le charisme. Lui, il n'a pas la carrure d'un président. Mais c'est quoi la carrure d'un président? Vous vous en souvenez pas, peut-être, parce que si vous êtes plus jeune que moi, vous vous en souvenez pas. Moi, je me souviens très très bien de 2005-2006, quand Nicolas Sarkozy était candidat à la présidentielle, la quantité de gens qui disaient « il n'a pas le charisme, il n'a pas la carrure ». Sarkozy n'a pas la carrure d'un président. Parce que la carrure d'un président, avant, c'était Mitterrand et Chirac. Tu vois, donc les gens, ils avaient un espèce de standard de Nicolas Sarkozy, il est trop nerveux, Nicolas Sarkozy, machin et tout. Bon. Nicolas Sarkozy est élu président. 5 ans plus tard, on arrive à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. François Hollande. Ah non, François Hollande, il n'a pas le charisme. Ah non, il n'a pas la carrure d'un président. Oh là là, à l'époque, il y avait l'insulte. C'était quoi déjà? Le yaourt, là. Putain, je suis fatigué. Flamby, voilà, Flamby. MDR Flamby. Ah ben non, mais du coup, le mot est censuré, Flamby. Dans le chat. C'est gentil. C'est pas la peine de le spammer, merci. Flamby, Lidadidadoum. Donc, François Hollande est élu président de la République. On arrive en 2017. On arrive en 2017. Emmanuel Macron. Oh non, Emmanuel Macron, il n'a pas le charisme d'un président. Il n'a pas la carrure d'un président. Emmanuel Macron, c'est un inconnu. Emmanuel Macron, il est trop jeune. Il est trop idéaliste. Tout ça, je l'ai entendu. Hein. Tout ça, je l'ai entendu à chaque fois. À chaque fois. On a une campagne présidentielle, on a cette espèce de débat un peu débile sur une espèce de perception non seulement psychologisante, mais en plus assez physique, corporelle du président. Et moi, ça me bute en fait. Genre, vraiment, ça me bute. Je trouve ça. Carrure égale épaule, pour moi, quand j'entends ça, c'est synonyme de compétence. Bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est la compétence. Mais encore une fois, là aussi. C'est un débat qu'on a souvent avec le chat sur c'est quoi la compétence pour être élu député? C'est quoi la compétence d'un bon député? Qu'est-ce qui fait un bon député? Est-ce que c'est sa compétence? Est-ce que c'est sa capacité à négocier? Est-ce que c'est sa capacité à parler? Est-ce que c'est son éloquence? Est-ce que c'est sa maîtrise technique des dossiers? Est-ce que c'est sa maîtrise politique? Est-ce que c'est son idéologie? Je sais pas. C'est un biais psychologique associé au physique des gens, et malheureusement, oui, des gens qui ont un physique qui donne confiance sont plus persuasifs. Hugo Mercier l'explique bien dans un de ses livres. Non, non, bah, je vais bien le croire, mais disons qu'on est pétri de contradictions, nous, le peuple français. On est pétri de contradictions parce qu'on voudrait ne voter que sur des. On voudrait ne voter que sur des programmes. Ah, moi, vous savez, je suis aveugle aux candidats, je ne regarde que les programmes. Bon, ça, vous la connaissez, machin. Et puis à l'inverse, au moment où les candidats se présentent, bon bah on a des débats pendant des plombes pour savoir si Ségolène Royal est une femme séduisante. Alors ça aussi, vous avez peut-être pas connu, hein. Les médias dans les années 2000 qui faisaient des tartines d'articles pour savoir si Ségolène Royal était une belle femme ou pas. Ouais, bah oui, ça existait, hein. Je vous jure que ça existait. Bon, tu me diras, on a eu pareil avec Marine Le Pen, hein. Marine Le Pen avec ses chats, Marine Le Pen. Dans sa maison, Marine Le Pen sur son canapé, Marine Le Pen qui boit du thé, Marine Le Pen, enfin bon, bref. Après, moi je suis un grand défenseur aussi, vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois, moi je suis un défenseur de chacun vote pour ses raisons. Il me revient pas à moi de qualifier un vote de meilleur qu'un autre sous prétexte que mes petits critères à moi sont supérieurs aux vôtres. Vous avez peut-être vos critères à vous. Voilà, vous avez peut-être envie d'un truc qui, moi, m'indiffère. Et à l'inverse, il y a peut-être des trucs sur lesquels je vais être un peu pointilleux où vous direz oui, c'est pas définitif, quoi. Puis il faut jamais oublier que le corps électoral, il est composé de gens très différents les uns des autres. Ma grand-mère vote à toutes les élections. Ma grand-mère vote. Je ne sais pas pour qui elle vote. Elle me l'a jamais dit. Mais ma grand-mère est une très vieille dame. Hein. Je suis pas persuadé que ma grand-mère, elle est née dans la réforme des retraites. Je suis pas sûr qu'elle ait conscience de ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Mais elle vote. Et elle vote pour ses raisons à elle, qui sont probablement pas les miennes d'ailleurs. Bon, bah voilà. Il y a des jeunes qui votent pour les raisons qui leur tiennent à cœur à eux. Qui disent, moi, c'est le climat, il y a que le climat qui m'intéresse, le reste, j'en ai rien à foutre. Pourquoi pas? Voilà. Et à l'inverse, il y a des gens qui votent pour un physique, pour une tronche. Il y a des gens qui votent pour une personnalité parce que lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien, je l'ai vu à la télé, je l'ai trouvé bien. Ben, il y a des gens pour qui ça suffit, pour trouver, pour qui voter. Tant mieux pour eux, hein. Quelque part, je les envie. Moi, je me prends la tête pendant un an et tout, mais bon. J'ai vu que certains voulaient abaisser l'âge du droit de vote. Qu'en penses-tu? Moi, j'ai toujours été favorable. Je vous invite à lire mon livre, hein. Les jeunes, c'est le présent. Parce que la démocratie a besoin des jeunes et vice-versa. Moi, je suis favorable au droit de vote des jeunes. Alors, j'ai même entendu une proposition qui a été faite récemment par un auteur, j'ai oublié son nom, qui parlait du droit de vote des enfants. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui sur l'idée que le vote doit devenir une activité que l'on fait dès le plus jeune âge. Si vous voulez lutter contre l'abstention, il faut créer des souvenirs dans la tête des enfants. Qui sont allés voter quand ils étaient petits, et quand ils arriveront à l'âge adulte, ils continueront à le faire. Ça s'appelle apprendre à voter. Ouais, donc c'est l'idée de dire que les enfants peuvent être inscrits sur les listes électorales par leurs parents, et ils peuvent voter comme leurs parents librement. Ça va juste être des votes bonus pour les parents, ça. Oui, et alors? Je sais, ça, c'est une thèse qui est défendue souvent dans le chat, et vraiment, celle-là, je ne l'ai jamais comprise. C'est l'idée qu'en fait, il y a des bons et des mauvais votes. Le bon vote, c'est un vote qui est différent de celui de tes parents. Le mauvais vote, c'est un vote qui est similaire à celui de tes parents. Le vote familial, c'est le phénomène qu'on explique en France dans les comportements électoraux. En France, la majorité des gens votent comme leurs parents. C'est comme ça. Ça s'appelle le vote familial, c'est un phénomène. Et en même temps, c'est un peu normal, parce que les enfants et leurs parents forment une communauté qui s'appelle la famille, qui partage un certain nombre de critères, de caractéristiques. De classe sociale, par exemple, d'environnement culturel, social, d'intérêt aussi. Donc, aux surprises, les gens ont tendance à voter de la même manière que leurs proches. Mais apparemment, ça deviendrait mauvais quand c'est un enfant. Alors un enfant, non, c'est pas bien, il faut pas qu'il vote comme ses parents. Bah, foutu la paix, en fait, il vote s'il veut comme ses parents. Puis s'il fait un choix différent de ses parents, c'est son problème. C'est le manque de bagages qui pose problème. Pareil, là aussi, je suis désolé, après, je suis un fieffé démocrate, moi, vous me connaissez, hein. Ça veut dire quoi la compétence à voter? C'est quoi le critère qui juge que tu as assez de bagages ou pas assez de bagages pour voter? Ça vient d'où cette idée-là, en fait? C'est quoi ce délire? Genre, les autres sont des gros cons, ils ont pas mon bagage à moi. Genre, moi, Jean Massier, qui a passé les 20 dernières années de sa vie à suivre la politique française assidûment, j'aurais plus de bagages que vous pour exprimer une opinion? Sur la base de quoi? Mais à quelle heure, en fait? Non? Non? Certainement pas. Hors de question. Je ne suis pas vous. Vous êtes vous-même. Vous êtes libre de voter ce que vous voulez. Mon vote n'est pas de meilleure qualité que le vôtre. Certainement pas. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur vous votez pour vos raisons. Pas pour les miennes. C'est ça être démocrate. C'est ça la démocratie. Faire confiance à l'intelligence des gens. Faire confiance à la capacité des gens à voter pour ce qu'ils veulent, eux, mais pas moi, eux. C'est leur vie, c'est eux qui voient les choses, c'est eux qui voient les candidats, etc. Ils ont envie d'ouvrir les programmes s'ils ont envie, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Tu n'as aucune vision économique, enfant. Et alors? Et alors? Quand t'es enfant, t'es pas un citoyen, t'es pas un membre de la société, t'es pas une personne dans la cité. Il faut une compétence économique, c'est obligatoire ça? Il faut une compétence économique pour voter? Ah merde. Il y en a deux, trois dans le chat, je suis désolé, vous allez perdre le droit de vote, hein. Bah ouais, bah non, bah oui, mais apparemment, il faut une compétence économique. Ouais. Ah ouais, non, je suis désolé, hein. Donc, je refuse la notion de qualification du vote. D'ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle je refuse la qualification du vote, c'est d'après vous, si on commence à jouer à ce petit jeu-là, là, le petit jeu de la compétence citoyenne, etc., c'est quoi la catégorie de la population qui va être le plus exclue? Ouais, les pauvres. Exactement, les pauvres. Comme par hasard. Ah bah ouais, ah bah pas de bagage culturel, pas de capital culturel, pas de capital économique. En général, c'est assez lié quand même. Ouais, désolé monsieur, hein. Bah ouais, vous êtes trop con. Vous êtes un mauvais citoyen. Ouais. C'est ballot, hein. Il fallait travailler à l'école. Non, mais enfin bref, donc vous voyez le retour du suffrage censitaire par le capital culturel. Moi, c'est hors de question, jamais je soutiendrai ce truc-là. Donc je suis favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales, je suis favorable au droit de vote des jeunes et des enfants. À minima, l'inscription sur liste électorale doit être libre pour les enfants. pour les mineurs de moins de 18 ans. Et puis voilà. De toute façon, on en avait déjà parlé l'autre jour, c'est que moi je suis favorable à toutes les mesures possibles et imaginables qui vont faciliter et inciter à voter. Je pense que ça, c'est un combat qui mérite d'être mené, que le fait d'aller voter soit facilité. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais même favorable à créer des moments de convivialité, des moments de fête à l'occasion des opérations électorales. Genre une galette saucisse égale un vote. Bah ouais, vous savez quoi, j'y pensais l'autre nuit parce que j'avais du mal à dormir. Donc je repensais, vous vous souvenez la dernière fois? Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on avait une discussion avec le chat sur plutôt que de comptabiliser le vote blanc, quand est-ce qu'on réforme dans ce pays le vote pour qu'il soit accessible, facilité, et que ce soit de plus en plus difficile de s'abstenir. Et j'avais dit que ce serait bien d'avoir le vote par correspondance, par anticipation, le vote par Internet, il faut y réfléchir, d'autant que ça existe déjà. Et puis j'avais dit, il faudrait créer, faciliter des petits nudges sympas qui te donnent envie de voter, parce que le fait d'avoir voté te donne droit à un truc. En l'occurrence, y a des boulangeries qui offrent des chouquettes ou des croissants gratuits à tous les clients qui ont voté. Genre, si tu présentes ta carte électorale avec le tampon de la date, t'as le droit à une chouquette ou je sais pas, un truc comme ça. Et moi, comme au don du sang, exactement comme le don du sang. Comme le don du sang. C'est juste sympa, gentil, ça fait plaisir, c'est pas déterminant du tout. C'est absolument pas déterminant. Mais juste, c'est un truc en plus. Et moi, je me disais, dans ma tête, je me disais, mais attends, on pourrait imaginer que dans la loi, on inscrive une règle qui est que le jour du vote, le jour des opérations électorales, les entreprises, notamment les commerces, sont incitées à faire des promotions sur présentation de la carte électorale. Genre, on pourrait imaginer un système où les boutiques, les boulangers, les charcutiers, les machins, j'en sais rien. Enfin, en fait, les boutiques payent moins d'impôts ce jour-là, spécifiquement ce jour-là, s'ils font des opérations machin. Une espèce de soldes électorales. Ouais, une espèce de soldes électorales, mais attention, hein, qui n'est valable que pour les gens qui ont voté. C'est quoi cette idée ridicule? Bah, n'hésite pas à taper sur ton clavier les raisons pour lesquelles tu trouves ça ridicule. Et ceux qui n'ont pas le droit de vote, c'est contraire à l'égalité. Qui n'a pas le droit de vote? De toute façon, il n'y a pas d'égalité. Tu rentres dans un magasin que si tu as envie d'entrer dans un magasin. Ça, pour le coup. Un sub à Jean-Massier sur présentation de la carte électorale. Ah, tu dis ça, mais il y en a plein qui sont pas abonnés, là, dis donc, dans le chat. Bon alors. Abonnez-vous, c'est gratuit. Avec Amazon Prime, évidemment. C'est l'apartheid des gens qui n'ont pas voté, en gros. Ah ouais, carrément. Moi, je te dis, si t'as voté, t'as une chouquette gratuite, toi, tu me réponds apartheid. Non mais la prochaine fois, mec, camp de concentration directement. Non mais vas-y, enfin, allons-y, allons-y, allons-y direct. Quitte à partir loin, vas-y. Ouais, génocide. Les pauvres abstentionnistes. Mais ils font ce qu'ils veulent, les abstentionnistes, hein. Ils peuvent toujours acheter des chouquettes, hein. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas stupide, mais je trouve ça un peu décalé avec le côté formel et solennel du vote. Eh ben, c'est fait exprès. Voilà. Moi, il y a un moment donné, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'en ai ma claque. Ça fait 10 ans que j'essaie de faire de la vulgarisation politique sur Internet. Ça fait 10 ans que je me rends bien compte que la politique, c'est chiant sa mère. Ça gonfle les gens, ça énerve les gens. Est-ce qu'on peut juste accepter de désacraliser au bout d'un moment la politique, 2 minutes, de faire redescendre sur Terre toutes ces belles personnes et de créer des conditions d'une démocratie un peu vivante? Donc la solennité du vote, moi je veux bien à l'intérieur du bureau de vote, ça a du sens, pas de souci. Mais à l'extérieur du bureau de vote, moi je veux des tréteaux, des tables, des chaises et un apéro citoyen. Moi je veux qu'on fasse la teuf, moi je veux qu'on passe un bon moment quand on va voter. Je vois pas pourquoi est-ce que la démocratie devrait s'excuser de donner envie. Voilà, on devrait donner envie aux gens de participer, de voter. On devrait faciliter le fait de devenir élu local. Enfin, on devrait accompagner tout ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a que le secteur économique qui aurait le droit de donner de l'envie, de faire du marketing, d'aller chercher des gens, des consommateurs et tout. Et pourquoi la démocratie? Pourquoi on fait pas de campagne de communication pour la démocratie? Pourquoi est-ce qu'on fait pas de campagne pour inciter nationalement à l'inscription sur les listes électorales? Pourquoi il y a que les insoumis qui sont obligés de le faire tout seuls comme des grands? J'ai l'impression qu'on a honte de la politique, qu'on a honte de la démocratie. Bah, voilà. Moi, j'ai envie de lutter contre ça. Et ça passe par des trucs débiles. Comme par exemple, une chouquette, si t'as voté. C'est con, hein? Ça change rien. Mais ça fait plaisir. C'est juste ça fait plaisir. Que juste aller voter, ça donne envie. J'ai envie que les enfants puissent voter. J'ai envie que les enfants rentrent dans les bureaux de vote. Limite, faudrait qu'on fasse faire le dépouillement par les enfants. En plus, alors pour le coup, l'innocence des enfants. C'est pas un enfant qui va bourrer une urne. Vote à 16 ans ou à 14 ans, lequel préférez-vous? Moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'à partir de l'entrée en sixième, donc dès le début de l'enseignement secondaire, les enfants puissent s'inscrire librement sur les listes électorales. Pas d'inscription d'office, une inscription libre. C'est pas la même chose. Un jeune de 14-15 ans qui se rend à la mairie pour demander à être inscrit sur les listes électorales, pour moi, il a fait toutes les démarches nécessaires pour montrer sa volonté de devenir un citoyen comme les autres. L'accord des parents est nécessaire? Sûrement pas. Non. Les enfants seront manipulés par les parents sans que ce soit libre. Les enfants seront manipulés par leurs parents. D'accord. Comme vous y allez. Je sais pas, ça s'appelle une éducation. Enfin, c'est-à-dire que. Moi, quand j'étais petit et que ma mère, elle voulait pas que je mette les coudes sur la table, c'était pas de la manipulation de sa part, hein. C'est juste que c'est comme ça, en fait. On appelle ça éduquer des enfants, élever des enfants. Je pense que tu sous-estimes à quel point les enfants sont influencés et n'ont aucun esprit critique. Ça arrive qu'à l'adolescence et parfois jamais. Et alors? Enfin, pardon, excuse-moi, mais c'est peut-être pas ton cas, hein, mais je suis influencé. Moi, Jean Massier, 20 ans de machin, suis influencé. Je subis des influences. Peut-être pas ton cas, hein, peut-être que toi, effectivement, tu es très détaché, mais ça fait partie de la vie, en fait. C'est normal d'écouter ses parents quand on est petit et aussi quand on est grand, de discuter avec, d'échanger, de se laisser influencer, de revoir son jugement. D'échanger. Je comprends ton idée, mais je suis contre parce que tous les partis politiques vont faire de la stratégie populiste qui va niveler vers le bas le niveau. Je sais pas ce que c'est le niveau dont tu parles. Stratégie populiste, ça existe déjà, surtout depuis une dizaine d'années, quinzaine même. Et si pour toi les enfants sont inférieurs aux adultes, bah écoute, disons que toi et moi sommes en désaccord sur ce point-là. Considère que quand on est démocrate, on considère qu'une personne égale une voix, que c'est la condition humaine qui fonde les droits et pas la nationalité, la religion, la compétence ou l'appartenance à un corps ou à un autre. Mais je sais, encore une fois, hein, lisez Les jeunes, c'est le présent. Dans ce livre, j'explique assez longuement d'où vient effectivement ce réflexe méprisant envers les jeunes. Les jeunes sont des connards. Les jeunes, c'est des cons. Déjà, ils sont cons. Voilà. Ils sont manipulés par leurs parents. Les jeunes, ils sont manipulés par le marketing. Ils sont rendus violents par le jeu vidéo et par Marilyn Manson. Voilà. Les jeunes sont des gros cons. Est une idée qui a une histoire, qui vient pas de nulle part. Et ça se retrouve effectivement dans beaucoup de messages que je lis là dans le chat depuis tout à l'heure sur mais attendez, on va quand même pas faire voter les jeunes. Ça va abaisser le niveau. Ça va abaisser le niveau de la démocratie si plus de gens y ont accès. La meilleure des démocraties, après tout, c'est une démocratie resserrée. Finalement, si on faisait voter que les hommes éduqués, pas mal. Ça aurait de la gueule. Ce serait mature. Pas faire voter les femmes et les jeunes non plus, faut pas déconner. Puis alors les étrangers, je vous en parle même pas. Aux élections locales, et puis quoi encore? Est-ce que tu as une simulation de ce que ça donnerait au niveau résultat? Non, ça a jamais été testé. Est-ce que ça ne pourrait pas favoriser les courants de pensée très natalistes? Non. Non, je crois pas que les jeunes soient favorables au natalisme plus que les vieux. Est-ce que ce sont pas les mêmes arguments que pour le vote des femmes? Si, exactement. Exactement. À chaque fois, mais à chaque fois dans notre histoire qu'on a élargi la démocratie, on a eu les mêmes débats, avec les mêmes arguments, qui ont donné naissance aux mêmes fantasmes, qui se sont révélés être des fantasmes. À chaque fois, le vote des femmes va diluer la qualité du vote. Le vote des femmes va rendre les élections susceptibles d'être emmenées par des émotions. Parce que vous savez, les femmes, elles ont un utérus, du coup, elles sont hystériques, et elles se laissent emporter par leurs émotions. Ça, c'était des arguments qui étaient donnés. La fin du suffrage censitaire, hein, le droit de vote des pauvres, le suffrage universel, même débat. Pourquoi est-ce qu'on laisse les pouilleux voter? Mais c'est quoi cette idée, enfin? C'est nous, les gens éduqués, les bourgeois, qui devons pouvoir voter, parce que nous, on a l'esprit critique, nous, on a la culture, on a l'éducation. On va quand même pas laisser un agriculteur voter. Pareil à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Systématiquement. On parle d'esprit critique, rien à voir avec le vote des femmes. Ah, ça a tout à voir avec le droit de vote des femmes. Tout à voir avec le droit de vote des femmes. C'était les mêmes débats dans les années 1900, quand ça a été voté à l'Assemblée nationale, rejeté au Sénat, pareil dans les années 20. À nouveau, le Sénat de droite a rejeté une proposition de gauche pour le droit de vote des femmes, etc. Jusqu'en 1944, à chaque fois, c'était le même débat. Les femmes sont manipulables, les femmes sont bêtes, les femmes sont soumises à leur mari. Il ne faut pas leur donner le droit de vote. Ah oui, il y avait aussi un argument qui était très important, c'est que les femmes allaient se confesser à l'église. Donc d'un certain point de vue, donner le droit de vote aux femmes, c'était donner un droit de vote à l'église. Parce que le prêtre allait pouvoir dire aux femmes quoi voter. Ça, c'était un truc qui était dit à gauche. Ah ouais, non, c'est les débats au Parlement sur le droit de vote des femmes, je vous invite à les lire, hein, c'est... On dirait les débats sur le droit de vote à 16 ans aujourd'hui, hein. Jean, tu es en train de comparer des femmes à des enfants. Absolument, pour une raison très simple que je vais te montrer tout de suite. Hop là. Code civil de Napoléon, Code civil des Français, 1805, tout ça, vous connaissez, le Code civil a consacré le fait que les femmes et les enfants étaient des meubles en droit français, et c'est profondément ancré dans les imaginaires. On a assimilé la femme, l'enfant et la table basse. Il a fallu attendre des siècles pour qu'on arrive à l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Il a fallu attendre 1990 pour que l'on signe la Convention internationale des droits de l'enfant, reconnaissant l'enfant comme un sujet et non pas comme un objet. Et là, on est en 2025 après Jésus-Christ et on est en train de débattre sur le droit de vote des enfants. C'est exactement la même chose que le droit de vote des femmes. C'est pareil. On est en train d'élargir le droit de vote vers des catégories qui jusqu'à présent en étaient exclues. Et oui, les femmes et les enfants sont complètement assimilables aux yeux du droit et aux yeux de la, aux yeux à l'époque, hein, à l'époque avant le droit de vote des femmes, et aux yeux de la logique politique qui s'appliquait. La femme, sa place, c'est à la maison avec les enfants. C'est pas dans un bureau de vote. Ça, cette phrase, elle a été prononcée, reprononcée, surprononcée pendant des années. Ça ridiculise bien le terme de patriarcat si utilisé aujourd'hui. On vit dans un monde plus libéral que jamais pour les femmes. Dis que t'as pas compris la notion de patriarcat sans le dire. Moi, je vois que ça. Je suis désolé, frère, mais tape le mot dans Google et check un peu. Si on déroule ta logique, faudrait quasiment supprimer le concept d'enfant. Non, parce que les enfants sont des êtres vulnérables qui doivent faire l'objet d'une protection particulière. Ça, c'est la philosophie de la CIDE que j'ai toujours défendue. Donc, le concept d'enfant, l'enfant est un citoyen comme les autres, l'enfant est dépositaire de droits. Il est sujet de droit, il doit bénéficier d'une protection accrue compte tenu de sa minorité, qui le place en situation de faiblesse. Les enfants doivent être protégés. Mais les enfants sont des citoyens. Les enfants font partie du corps social. D'ailleurs, c'est prévu par la CIDE le principe que les enfants doivent pouvoir participer et que la liberté d'expression est l'un des droits les plus importants pour les enfants. Mais tu es donc contre la notion de majorité? Non, je ne suis pas contre la notion de majorité. Je veux que les enfants puissent voter. Je veux que des enfants de 14-16 ans puissent aller voter aux élections, parce que ça les concerne. Et ils ont le droit de voter. La majorité, c'est pas que le vote. Et heureusement d'ailleurs, la majorité, c'est pas du tout que le vote. Il y avait un magistrat. Alors attends. Je sais pas, je reviens. Le collectif Agir pour les droits de l'enfant. En avant les droits de l'enfant, respectons-les dès aujourd'hui. Et ça, vous voyez, là, sur la une, c'est ma gueule. C'est moi, ça. En train de tenir un plateau, en train de tenir un panneau sur lequel il y a écrit Les jeunes, c'est le présent. Ce livre date de. Sais pas, je trouve pas. Bon, bref. Bref, c'était un bouquin du collectif AEDE, justement, qui compilait un petit peu tous les progrès qui avaient été faits par le secteur associatif et en matière législative aussi sur les droits de l'enfant. Et je me souviens que dedans, on avait interviewé un magistrat, spécialiste des droits de l'enfant, un juge des enfants, qui avait réalisé un tableau qui montrait à partir de quel âge on a le droit de faire quoi. Et c'est complètement bordélique, en fait, ça n'a aucun sens. Par exemple, vous avez le droit de piloter un hélicoptère à 17 ans. Seul. Par contre, vous pouvez pas conduire. C'est-à-dire que vous avez le droit de poser un hélicoptère, mais ensuite vous pouvez pas marcher jusqu'à la voiture pour partir de l'aéroport. C'est pas possible. Il y a que des trucs comme ça, en fait. C'est complètement absurde. Vous n'avez pas le droit de passer le permis de conduire avant 18 ans, mais vous pouvez vous retrouver seul sur la route à partir de 14 ans à la conduite d'un véhicule. C'est notamment le cas des véhicules agricoles. C'est 17 ans maintenant. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est 17 ans maintenant. Ça a été rabaissé l'année dernière. Tant mieux, tant mieux. Bah, du coup, c'est bon, tu peux poser ton hélico et partir en bagnole. Ça, c'est classe. Ça, c'est cool. Mais avant, en fait, vous avez les scooters, vous avez les mobylettes, vous avez tous les trucs que vous pouvez conduire à partir de 14 ans. Et même à 14 ans, vous pouvez travailler. Le travail en France, c'est à partir de 14 ans, mais uniquement dans un contexte familial et pour des activités agricoles ou de pêche. Il y a les voitures sans permis à 14 ans aussi maintenant. Il y a le permis de chasser, ouais, il y a le permis de chasser. Et en fait, si vous mettez tout ça dans un tableau, dans une frise chronologique, vous vous rendez compte de l'absurdité. Est-ce que vous savez à partir de quel âge on peut aller en prison? Prison pour enfants, certes, mais prison quand même. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais c'est 13 ans. Ouais, c'est 13 ans. 13 ans, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez vous retrouver en prison pour des actes que vous avez commis. Est-ce que vous, l'âge à partir duquel vous pouvez être entendu en justice? À ma connaissance, c'est à partir de 7 ans, à partir de l'âge de 7 ans, vous pouvez être amené à être auditionné, entendu à minima, pour une affaire qui vous concerne par le juge, notamment aux affaires familiales. La plupart du temps, c'est affaires familiales. En tant que témoin ou accusé. Non, là en l'occurrence, c'est juge aux affaires familiales, donc c'est par exemple dans le cadre d'un divorce entre tes deux parents qui te concerne, la justice peut être amenée à t'écouter à partir de l'âge de 7 ans. Donc ouais. Donc vous pouvez conduire une voiture à partir de l'âge de 14 ans sur la route. Tout seul, en autonomie. Par contre, vous pouvez pas aller voter, hein. Ah non. Ah non, c'est sérieux le vote. Je comprends mieux ton argument sur le droit de vote des enfants à voter car ils ont des citoyens comme les autres. Cependant, je ne pense pas que quelqu'un de 15 ans comprenne les enjeux politiques et économiques du pays. Au mieux, il va juste voter comme ses parents. Ce qui n'est pas mal en soi, mais du coup, il n'y a pas trop de plus-value. Bah, comment ça, il n'y a pas de plus-value? C'est son vote? C'est parce qu'il est le même que celui de ses parents que ça a peu de valeur, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, les jeunes de 15 ans ne comprennent pas les enjeux politiques et économiques du pays. Parce que vous les comprenez, vous? Est-ce que vous croyez que je les comprends, moi? Non, mais enfin, il y a un moment, je veux bien considérer que les jeunes sont des gros débiles, qu'on comprennent rien au monde qui les entoure, mais on se prend pour qui, là? On se prend pour qui? Nous, là, les passionnés de politique, à se renifler le cul en se disant, mais attends, non, mais moi j'ai grave conscience des problèmes du pays, tu vois. J'ai tout compris la réforme des retraites. J'ai tout compris la guerre commerciale, les droits de douane, tout ça. Non, mais en fait, moi je veux bien, je veux bien qu'on se la pète et qu'on se prenne pour je sais pas qui. Moi, je suis un citoyen éclairé de la République française. Non, la réponse c'est non. Je suis désolé, je suis largué. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis désolé, je suis largué. Je suis pas au top. Agriculture, pêche, je vous avoue, c'est pas mon. Voilà. Moi, je suis plutôt affaires scolaires historiquement. J'ai fait un peu politique de la ville, décentralisation, organisation des pouvoirs publics, droit constitutionnel. Voilà, c'est un peu mes secteurs où je me sens un peu à l'aise. Et encore, j'ai fait suffisamment d'études pour savoir que je ne sais pas grand-chose. Donc ouais, non, moi toujours pareil, hein. Cet argument, j'arriverai jamais à l'accepter. Je peux comprendre que ce soit un argument que vous acceptiez, hein, oui. Mais moi, je sais pas. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'on a une espèce d'hypocrisie collective quand on regarde ce que l'on attend des enfants, quand on regarde la confiance qu'on est capable de leur accorder parfois, et quand on regarde à côté la manière qu'on a de parler d'eux, là tu fais pardon, mais le mépris dont tu as fait preuve pour les enfants de 15 ans, alors que le reste du temps on les autorise à conduire une voiture, à conduire un scooter. À participer à la vie de leur établissement scolaire, à créer des associations. Oui, les mineurs peuvent créer des associations. Les jeunes, enfin, je veux dire, les jeunes de 15 ans, on peut les envoyer en prison. Enfin, pardon, mais quel niveau de responsabilité on peut leur accorder de plus? Les mecs, on les estime suffisamment adultes pour se retrouver en tôle. Je sais pas, on peut pas se dire que glisser un bulletin dans une urne, c'est OK. Ça va, c'est pas le bout du monde. On les autorise à être salariés. Oui, en plus, ils ont le droit d'être salariés. Ils voteront juste comme leurs parents, quel intérêt? Ben, comme d'habitude, toi, tu votes peut-être pas comme tes parents, mais la plupart des Français votent comme leurs parents. Je vois pas où est le problème. Je pense que c'est du gatekeeping et une peur du vote des jeunes. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est du gatekeeping. Je pense que c'est du gatekeeping, que c'est s'enfermer dans sa tour de verre. Maintenant que moi je fais partie du club, je veux pas que le club s'élargisse. Sinon, ça va le diluer. Et ouais. Explique-nous quel est le gain concret. Aucun. Aucun peur. Alors, si tu vois les choses comme ça, je te jure qu'il n'y en a pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas... La démocratie, c'est pas un coût-bénéfice. Voilà. Donc non, objectivement, ça ne sert à rien. Ça va pas augmenter le budget de quoi que ce soit. Des campagnes politiques à destination des enfants, c'est non. Il y a trop de dérives possibles. Oui, parce que nous, les adultes, ça va. Il n'y a pas de dérive. L'adolescence peut aussi être un moment de rébellion face aux parents et donc justement de voter différemment des parents. Ah oui, bien sûr. Se différencier de ses parents, ça fait aussi partie de l'adolescence. Et pour certains, ça peut être le cas dans les opinions politiques. Pas pour tous, mais ça peut. Propagande du corps enseignant possible. Oui, oui, mais c'est comme on le disait tout à l'heure. C'est comme les femmes qui vont se confesser auprès des prêtres. Donc donner le droit de vote aux femmes, c'est un peu finalement donner le droit de vote aux prêtres qui vont pouvoir manipuler les femmes en leur disant quoi voter. Est-ce que tes arguments n'impliquent pas un changement de l'âge de la majorité? Non. Mes arguments impliquent que la majorité, ce n'est pas une date fixe à partir de laquelle tout change. C'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. C'est ça que je vous explique en vous rappelant que dans la loi, aujourd'hui, il y a des âges différents à partir desquels vous pouvez faire des trucs spécifiques. Il n'y a pas de majorité, genre en dessous de 18 ans, il n'y a rien, au-dessus, il y a tout. Non. Tout est un continuum. De la même manière que l'enfance est un continuum, entre le nourrisson et l'adolescent, il y a un statut juridique qui s'appelle l'enfant, mais il y a un continuum de droits qui se crée et qui s'ouvre les uns après les autres. Et ben le droit de vote, pour moi, fait partie de ce continuum, et on peut largement en discuter la date de début. Donc c'est pour ça que moi je considère que ça peut être une bonne idée d'ouvrir le droit de vote à partir de l'enseignement secondaire, donc dès le début du collège. Il y en a d'autres qui vont considérer que c'est mieux de le faire au début du lycée, à partir de 16 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Moi je m'en fous, je veux juste que l'on facilite le vote pour les jeunes. Et je crois que d'ailleurs ça fait partie des propositions de la France Insoumise. Je crois que... Non, je sais pas même je crois, c'est je sais que ça fait partie des propositions de la France Insoumise à laquelle je souscris, qui est de rendre possible l'inscription sur les listes électorales pour les jeunes de... Alors je crois que c'est 16 ans pour LFI. Qui est contre le droit de vote des jeunes de moins de 18 ans au niveau des partis? Bah, en l'état actuel des choses, ça n'a pas été proposé. Donc je ne peux pas te dire qui a voté quoi parce qu'il n'y a pas eu de vote. Ce que je sais, c'est que c'est plutôt à gauche que c'est proposé. Donc LFI, PCF, écolo et socialiste sont tous, à ma connaissance, favorables à l'abaissement de l'âge du droit de vote. Peut-être pas exactement au même âge tous, j'en sais rien, j'ai pas le détail. Les autres, je sais pas. Les autres, je sais pas. Je crois que ça a fait partie des propositions de Macron à un moment. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, vous, dans le chat? Il n'y a pas eu un moment où Gabriel Attal, ou je sais pas qui, avait dit qu'il était favorable à titre personnel? Non, ça vous dit rien. J'ai un gros doute. J'ai un giga doute, je sais plus. J'avoue que j'étais réticent au départ, mais je commence à comprendre ton point de vue et je tends à m'en rapprocher. Et pour répondre à l'argument, ils votent comme leurs parents, je défie quiconque d'affirmer que la majorité des Français n'ont jamais changé de vote au fil du temps. Mais bien sûr, mais heureusement. Vous croyez que tout le monde est fier de ses votes de jeunesse? Vous croyez que Zemmour, il est content d'avoir voté Mitterrand en 81? Vous croyez que Mélenchon, il est content d'avoir voté Maastricht en 92? Ouais, c'est moche, je sais, bah oui, mais j'étais obligé de le dire, hein, quand même. Je suis désolé, ça fait partie de l'histoire. Bon, bah voilà. Le vote, ça change, le vote, ça évolue, le vote, ça bouge, on change tous, on évolue tous. C'est un vrai truc, Zemmour? Ah oui, Éric Zemmour, en 1981, a voté François Mitterrand. C'est pour ça que je vous dis toujours de jamais dire jamais. Parce que vous savez, en politique... Politique, on peut être surpris. On peut être surpris, on peut être surpris, on peut être surpris. J'ai voté Mélenchon quand j'étais plus jeune, j'ai honte de moi. Oh, mais ça va! C'est pas une erreur de jeunesse. Il y a des gens très bien qui votent pour lui, même à l'âge adulte, hein, c'est pas. Chirac a bien voté Hollande en 2012. C'est vrai, ça? Chirac. Il a voté qui contre Sarko? Il a voté Hollande, tu penses? Oh, ce serait si drôle. Est-ce que les présidents votent pour eux-mêmes? Vraie question con. Bah oui, je pense, oui. Je suis même convaincu. Les copains, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vous retrouve demain pour... Alors attendez, attendez, il faut que je vous remontre la prog de la semaine pour qu'on soit bien tous raccord sur c'est quand les streams, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, la revue d'actu, c'est fait. Ah, mais je l'ai lancée à 14h et pas à 15h. Putain, je suis désolé. Demain, on fait une FAQ politique et on pourra peut-être continuer la Constitution si on veut. Mercredi, revue d'actu. Jeudi, pas là. Vendredi à 17h30, Backseat. Vendredi, 17h30. Attention, ne vous trompez pas. Backseat aura lieu à 17h30 le vendredi au lieu du jeudi. Et on sera en direct de Frames à Avignon. Si vous habitez à Avignon ou si vous habitez pas loin d'Avignon, je vous donne rendez-vous à Frames vendredi 17h30 pour Backseat. Rendez-vous sur le site de Frames et ça va être trop cool. Venez, ça va être bien. J'ai hâte de vous rencontrer. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci pour ces discussions et ces débats qu'on a eus, vous et moi. Pardon si j'ai été un peu définitif. C'est parce que ça me tient à cœur les droits de l'enfant. J'ai quand même ma tronche en une d'un pavé sur les droits de l'enfant. Quand même. Puis bon, j'ai quand même littéralement écrit un livre sur le sujet, donc c'est vrai que ça me tient un peu à cœur. Je suis désolé, je suis à cran. Je vais me reposer. Des bisous à demain. Ciao tout le monde.